السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله عز وجل. En cette soirée du samedi 11 صفر 1435 de l'Hégire, correspondant au 14 décembre 2013. Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui avec le 21e cours du dogme du monothéisme de Cheikh Fawzan, hafidahullah ta'ala. La fois passée, on avait parlé du shirk, et nous avons montré qu'il se divisait en deux grandes sortes, le grand shirk et le petit shirk. Hein? Donc c'est très important de savoir qu'il y a deux sortes de shirk, et que le grand shirk, entre autres, celui qui le fait, ne pardonne pas s'il meurt sans faire le repentir. Et que si jamais quelqu'un meurt avec le grand shirk, il va rentrer éternellement en enfer, contrairement au petit shirk. Naam, qui, Allah Azza wa Jal, yani, s'il ne pardonne pas celui qui l'a fait, yani, mais quand il meurt, il ne sera pas éternellement en enfer. Naam, comme c'est le madhab de la plupart des savants de la Sunna ou Jama'a. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va voir, bi'idhnillah Ta'ala, la mécréance. Naam, la mécréance, le kufr, sa définition et ses catégories. On va voir aussi que la mécréance, le kufr, yani, se divise aussi yani, en deux sortes. D'abord, on va dire sa définition. On commence Allah Ta'ala par sa définition. Tayyib. Littéralement, hein, yani, c'est pas religieusement. Je répète, religieusement, le terme kufr est l'opposé de l'iman. Car la mécréance est l'absence de la foi en Allah Azza wa Jal et en ses messagers. Que cette absence de foi soit accompagnée de la dénégation, de la révélation, ou pas. De même, cette absence de foi, si elle est due à des raisons telles que le doute, le détournement, la jalousie, l'arrogance, ou le fait de suivre des passions, empêchant de suivre le message hein, que Allah Azza wa Jalla a envoyé. Et celui qui dément la révélation est considéré comme plus mécréant encore. C'est également le cas de celui qui nie et dément par jalousie en étant certain de la véracité des messagers. Voir Majmou' al-Fatawa d'Ibn Taymiyyah, tome 12, page 335. Je répète une chose importante. Les savants disent qu'il y a toujours une relation entre le sens littéraire et le sens religieux. C'est toujours comme ça. Toujours. Naam. Quand on dit par exemple la salat, littéralement c'est dua. Littéralement c'est dua. Religieusement, c'est une yani, c'est des duas qui sont faits dans une position spéciale en disant Allahu Akbar, en commençant par Allahu Akbar, en terminant par dire Salam alaikum. Naam. Ici par exemple, c'est quoi la relation entre, quand on a dit littéralement le kufr, c'est l'action de couvrir et de cacher. Ensuite, religieusement, naam, où est l'action de cacher dans le kufr? Naam. Car la personne en fait, elle cache. Qu'est-ce qu'elle cache? Cette personne a caché la foi. À cacher la foi, donc il est kafir. Donc il y a toujours cette notion de cacher. Naam, que ce soit religieusement, que ce soit littéralement. Car on a dit qu'il y a toujours une relation entre le littéraire et le religieux. المهم, maintenant on va voir inshallah ta'ala ces catégories. Il y a la mécréance majeure, le kufr al-akbar, et la mécréance mineure, le kufr al-asrar. Comme on a vu dans le shirk, il y a le shirk al-akbar, le grand shirk, et le shirk al-asrar, le petit shirk. Maintenant, on va voir aujourd'hui que c'est la même chose en ce qui concerne la mécréance. Il y a la grande mécréance, la majeure, et la mineure mécréance, kufr al-asrar. Et c'est très, 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 très important de yani, savoir qu'il y a ces deux hein, dans la mécréance, de même que dans le shirk, de même que dans le prochain cours, inchallah, dans l'hypocrisie. L'hypocrisie aussi, il y a la grande et la petite. C'est très important que la personne sache qu'il y a yani, la grande et la petite. Que ce soit hypocrisie, que ce soit mécréance, que ce soit association. C'est très important. Et celui qui ne sait pas qu'il y a deux, qu'il y a deux sortes, la grande et la petite, et qu'il y a une différence énorme entre la grande et la petite, qu'est-ce qu'il va faire? Miskin, miskin, cette personne, qu'est-ce qu'il va lui passer? Elle va tout mélanger. Alors que Allah Ta'ala ou le prophète, peut-être, dans un verset ou un hadith, il parlait de la petite mécréance, ou de la petite hypocrisie, ou de la petite association, lui, il ne sait pas qu'il y a la petite et la grande. Il va dire, il y a le mot shirk, il y a le mot kofr, il y a le mot nifer, hypocrisie, donc allez, c'est terminé. C'est comme par exemple, on va prendre le hadith du prophète sallam, où il va dire par exemple que parmi les signes de l'hypocrite, trois choses. Par exemple, quand il parle, il ment, quand il donne des rendez-vous, il loupe. Non, mais il ne tient pas les dépôts, la amana. Et il ne sait pas par exemple que ici, c'est une petite hypocrisie. Donc, s'il connaît quelqu'un qui, quand il parle, il ment, il va dire que celui-là, c'est un hypocrite. Et Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit des hypocrites? Qu'ils sont. Les hypocrites sont non seulement en enfer, mais dans le plus bas. Donc il va dire, cette personne qui est mon voisin, et il ment, donc c'est un hypocrite. Il va être dans le plus bas de Jahannam et ne va plus sortir à A'udhu Billah. Pourquoi? Il ne sait pas qu'il y a deux hypocrisies, deux mécréances et deux shirks. Et deux shirks. Al-Muhim, puisqu'Allah Azza wa Jal nous apprend dans notre din. La mécréance est de deux sortes, majeure et mineur. 1. La première sorte, la mécréance majeure, le kufr al-akbar. La première sorte est la mécréance majeure, le kufr al-akbar, qui fait sortir de la religion. Donc on a appris déjà quoi? Que la grande mécréance fait sortir la personne qui s'y livre et qui l'a fait sortir de la religion carrément. Et cette mécréance majeure elle-même se divise en cinq sortes. On va voir, Inch'Allah Ta'ala, la première sorte. La première sorte, c'est la mécréance basée sur le démenti, tekdib. Kufr et tekdib. Que quelqu'un démente. Non, mais il dit, c'est pas vrai, c'est des mensonges, ça, c'est faux. Celui-là, il a démenti. Donc, ça rentre dans. On est toujours en train de parler maintenant de la grande mécréance. Celle qui fait sortir de l'islam. Elle-même se divise en cinq parties. La première, la mécréance majeure basée sur le démenti. Kufr et tekdib. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ 29-68, c'est-à-dire en français, à peu près. Et quel pire injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah, ou, voilà le témoin, ou qui démonte la vie quand elle lui parvient. N'est-ce pas dans l'enfer une demeure pour les mécréants? Donc, Allah Ta'ala dit, celui qui invente un mensonge contre Allah, ou bien démon, voilà le témoin. Du coup, il dément la vérité quand elle lui parvient. Il dément la vérité. Allah Ta'ala a dit, son prophète a dit, te dit, c'est pas vrai. Allah Ta'ala a dit, n'est-ce pas dans l'enfer une demeure pour les mécréants? Donc celui-là, il va aller en enfer, ce sera sa demeure, et c'est un mécréant. Trois choses. Taïb. La deuxième sorte, on est toujours, hein, dans la grande mécréance, on a dit il y avait cinq sortes. La première, c'est le fait de démentir, tekdib. La deuxième sorte, la mécréance due au refus et à l'orgueil. Kufr, al-iba, ils refusent. Ou al-istikbar, ils sont détournés par orgueil. C'est-à-dire, il sait la vérité, mais il est orgueilleux, il ne veut pas suivre. Donc, la mécréance due au refus, il refuse d'accepter. Et Yanni est orgueilleux. Vous allez dire, c'est quoi la différence entre la première et la deuxième? Non, dans la première, il t'a pas cru du tout. Il a dit non, tout ça c'est mensonge sur mensonge. Tout ça c'est pas vrai. La deuxième, il sait que c'est vrai, mais il refuse d'accepter. Nam. Et orgueilleusement aussi. Cette deuxième, c'est dans laquelle Allah Azzawajal a dit. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. البقرة 34. C'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, le shaitan, qui refusa, s'enfla d'orgueil, et fut parmi les infidèles, les mécréants. Donc Iblis. On ne va pas dire qu'il ne croit pas en Allah puisqu'il lui a parlé. Il y a eu un dialogue entre Allah et lui. Donc, c'est quoi son coffre? Il est venu de quel côté? Il est venu du fait que il y a un prosterné par orgueil. On a dit comment? Il y a un le Adam est mieux que moi. Déjà, moi, j'ai été créé avant lui. Et moi, j'ai toujours été parmi les anges. Naam, j'adorais Allah parmi les anges. Comment se fait-il celui-là? Il vient d'être créé, il sera mieux que moi. Alors que moi j'ai été créé de feu et lui de terre. Non, c'est pas possible. Par orgueil, il a dit, je n'accepte pas de me prosterner devant lui. Naam. Al-Muhim, ça c'est la mécréance due, ou là, basée sur le refus et l'orgueil. L'orgueil. Et c'est la deuxième sorte, bi-idhnillahi ta'ala. La troisième sorte. La mécréance due. Qu'on a confiance par incertitude. Kofr avan, avan. Naam, je doute. Naam, j'ai des doutes. Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que Allah existe? Est-ce qu'il n'existe pas? Est-ce qu'il y a paradis? Des fois il y a, des fois il n'y a pas. Et comme ça. Ça rend la personne mécréante. Car en islam, il faut la certitude. La certitude que ce qu'on teste, il y en est vrai. Il a dit la mécréance due au doute, qu'on appelle aussi. La mécréance par incertitude. On va voir s'il y a un verset. Allah Ta'ala dit, dans Sourate Al-Kahf 18:35. Il a dit, أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. C'est-à-dire, à peu près, en français, à peu près. Il entra dans son jardin, coupable envers lui-même par sa mécréance. Non, il est coupable car... Quand on est mécréant, on s'est fait du tort. Il dit, je ne pense pas que ceux puissent jamais périr. Ce jardin avec ses roses, ses fleurs, ses fruits, je ne pense pas que ça puisse périr un jour. Et je ne pense pas que viendra. Et si jamais on me ramène vers mon Seigneur, malgré tout cela, je trouve certes meilleur lieu de retour que ce jardin. Alors son compagnon lui dit, en conversant avec lui, serais-tu mécréant envers celui qui t'a créé de terre, puis de sperme, et enfin ta façonné en nom. Quant à moi, c'est Allah Azzawajal qui est mon Seigneur, et je n'associe personne à mon Seigneur. Donc cette personne, qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait des doutes. Naam, des doutes. Elle a dit, je ne pense pas que cette chose puisse jamais périr. Et je ne pense pas que l'heure viendra. Je ne pense pas. Naam. Regardez. C'est un kafir celui-là parce qu'il a des doutes. Et malgré cela, qu'est-ce qu'il a dit? Regardez bien ce qu'il a dit, et plutôt écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, Naam, et si jamais Si jamais, yani, je serai, eh ben, laisse-moi te dire que je trouverai chez lui là-bas, je trouverai meilleur, non, meilleur que ce jardin. Non, je trouverai meilleur que ce jardin et je trouverai meilleure récompense, c'est-à-dire meilleure récompense. Ça, ce qu'on appelle en arabe, ça s'appelle l'ghurur. L'ghurur, quelqu'un qui est mécréant, quelqu'un qui n'applique pas du tout, quelqu'un qui est très loin. Et je te dis peut-être, et il te dit peut-être que je suis mieux que toi qui applique et qui prie toutes tes prières à la mosquée, et toi qui es voilé, naam, et qui craint Allah le maximum, elle te dit, il te dit, je suis mieux que toi peut-être, et demain sans prière, avec tout ce que je fais comme grand péché, peut-être que je vais trouver chez Allah mieux que ce que tu vas trouver toi. Beaucoup de gens disent comme ça, comme a dit ce mécréant. Là, je pense même pas qu'il y a un jour où je vais rencontrer le Seigneur. Mais si jamais je le rencontre, je trouverai mieux que ce qu'il y a ici. Non, c'est quoi? C'est le shaitan. Il te dit, tu n'as rien fait de grave. Qu'est-ce que tu as fait de grave? Non, celui-là avec sa barbe, etc., il fait plein de péchés. Et toi, au moins, tu es sincère. Lui, c'est un hypocrite. Toi, tu es sincère. Toi, regarde, jamais tu ne mens, jamais tu n'as jamais volé ni brûlé une mosquée, ni alhamdoulilah. Tu n'as jamais tué quelqu'un, il te manque cette salade, c'est pas grave. Non, comme ça ils disent. Mais allez, ça c'était quoi? C'était la troisième sorte. Maintenant on revient, inchallah ta'ala, à la quatrième sorte. Non. La mécréance due au détournement. Kofr el-i'raz. Il se détourne complètement de la religion et n'y est pas intéressé du tout. Et n'aimerait pas entendre que tu dises un mot sur la religion. Et si tu dis un mot, il voudrait boucher ses oreilles et ne pas t'écouter. Dans son cœur, il sait qu'il y a la religion. Il y a. Et que c'est obligatoire de suivre. Et que si jamais il ne suit pas, il aura de grands problèmes demain quand il rencontrera Allah. Mais il s'en fout complètement. Il s'en détourne. Il est là en train de, yani, d'assouvir ses passions, de manger, boire. Assouvir ses passions charnelles, de danser, nam, et de fumer la drogue. Il s'en fout d'autre chose. Il te dit, moi, autre chose, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, moi, pour apprendre la religion, je ne sais quoi. Laisse-moi vivre ma vie. Laisse-moi vivre ma vie. Donc, ils s'en détournent. Ils s'en détournent. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ 3. Ceux qui ont mécru se détournent, nam, de ce dont ils ont été avertis. Ceux qui ont mécru se détournent de ce dont ils ont été avertis. Donc, celui qui se détourne de ce dont il a été, nam, c'est un mécréant. C'est un mécréant. Tayyib. En cinquième sorte, Inch'Allah Ta'ala. Cinquième sorte, la mécréance par hypocrisie. Kofr al-nifaq. La mécréance par hypocrisie. Il est devenu kafir parce qu'il est hypocrite. Kofr al-nifaq. Le verset. Dalika bi'annahum amanu thumma kafaru fa tubi'a 'ala qulubihim fa hum la yafqahun. 63:3. C'est parce qu'en vérité, ils ont cru puis rejeté la foi. Leurs cœurs donc ont été scellés qu'ils ne comprennent rien. De sorte que ils ne comprennent rien. Moi, j'ai vu que ce verset n'était pas très clair comme témoin du cours. Nam, j'ai voulu ajouter autre chose, le verset qui va venir maintenant. Nam. Ida ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu. Wallahu yashhadu inna al-munafiqina lakadhibun. Allah a'lam qu'il est plus clair parce qu'il Il prononce le mot munafiq. Quand les hypocrites viennent à toi et Muhammad, c'est là que tu es certes le messager d'Allah. Tu es vraiment son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Non. Si Allah Ta'ala dit d'une personne que c'est une menteuse, celui-là, yani, c'est grave. Menteur en quoi? Dans l'attestation. Ce n'est pas menteur dans l'information. Quand il informe d'une chose. Il te dit que j'ai rencontré mon père alors qu'il ne l'a pas rencontré. Non. Il a dit Allah Ta'ala, ce sont des menteurs quand ils attestent Zama que tu es le messager d'Allah. Donc s'il a dit de toi, tu es menteur dans ton attestation, ça veut dire que tu es kafir. Kofr de quoi ici? Kofr dû à l'hypocrisie. Ensuite, remarquez une chose. Remarquez avec moi une chose. Allah Ta'ala dit, quand les hypocrites viennent à toi, ils disent, viennent à toi Muhammad, ils disent, nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah Ta'ala dit, Allah sait que tu es vraiment son messager. Ensuite, il a dit, et Allah atteste que les hypocrites sont des menteurs. Imaginez maintenant, on va décaler le troisième verset. Il y a trois versets. Le troisième verset, on va le mettre le deuxième. Qu'est-ce que ça va donner? Imaginez qu'Allah Ta'ala, il dit comme ça. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent, nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Ensuite, Allah Ta'ala a dit, Zama, Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Ensuite, Allah Ta'ala dit, Allah sait que tu es vraiment son messager. S'il avait dit ça, qu'est-ce que ça aurait donné? Pourquoi Allah Ta'ala a mis au milieu, Allah sait que tu es vraiment son messager, et n'a pas dit, Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Ensuite, Allah dit, Allah sait que tu es son messager. S'il avait fait comme ça aurait donné quoi? Ça aurait donné que, quand il a dit, quand les hypocrites viennent à toi, ils disent que tu es certes le messager d'Allah. Et si Allah Ta'ala va dire, Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs, donc ça veut dire que tu n'es pas le messager d'Allah. Parce que les hypocrites ont dit que tu étais le messager d'Allah, et Allah dit, les hypocrites sont des menteurs. Donc, tu n'es pas le messager d'Allah. Mais Allah Ta'ala a dit d'abord, Allah sait que tu es vraiment son messager. Naam, tu es son messager. Je confirme, tu es mon messager. Ensuite, il s'est retourné vers les hypocrites. Il leur a dit, vous êtes des menteurs. Des menteurs, c'est-à-dire, c'est pas dans le fait qu'il soit le messager, mais dans votre attestation, vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Naam. Voilà les cinq sortes de quoi? De l'attestation. À fond l'attestation de la mécréance majeure. La mécréance majeure, on avait dit que la mécréance se divisait en deux, majeure et mineure. La mécréance majeure se divise en cinq sortes d'après Cheikh Fawzan Hafidhahullah Ta'ala. Malgré cela, je dis, il y a une sixième sorte très importante que le Cheikh Hafidhahullah n'a pas cité. Je ne sais pas pourquoi, peut-être par omission. Il n'y a pas quelqu'un qui n'oublie pas. Wallahu ta'ala alam. Je vais dire, c'est celle-là. La mécréance due à la moquerie. La mécréance majeure due à la moquerie. Comme Allah ta'ala dit dans le Coran. Wala in sa'altahum, la yaquluna innama kunna nalab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. 9,65. C'est-à-dire, et si tu les interroges, Muhammad, ils vont dire très certainement, vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. Dis, est-ce d'Allah de ses versets et de son messager que vous vous moquez? Allah Ta'ala a dit, après ce verset, il a dit, laqad kafartum ba'da imanikum. Vous êtes devenus kuffar après votre foi. J'ai oublié de citer le verset. Après ce verset, il a dit, vous êtes devenus kuffar. C'est ça le témoin du cours. Vous êtes devenu kuffar. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il a dit ici? Est-ce d'Allah, de ses versets, de son messager, vous vous moquez? On ne se moque pas ni d'Allah, ni de son messager, ni du Coran, ni de la Sunna. Ensuite, dire que je plaisantais. Il n'y a pas ça en islam. Parce qu'ils ont dit que ce sont des hypocrites, bien sûr. Ils étaient en chemin, yani en chemin pour aller faire une bataille, Zama, avec le prophète, alayhi. Et en chemin, ils discutaient, ils disaient, Subhanallah, Muhammad, Espagnol, on n'a jamais vu des gens qui mangent comme eux, beaucoup, et qui mentent beaucoup, et sont vraiment peureux quand on rencontre l'ennemi. Non, ils ne savaient pas que Allah Ta'ala les a entendus. Allah Ta'ala, ensuite, le prophète est allé leur dire, pourquoi vous avez dit cela? Ils ont dit quoi? Vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer, on plaisantait. Allah Ta'ala a dit, C'est de la moquerie. Vous vous moquez. Et dans le verset qui suit cela, que j'ai pas cité, il a dit, vous êtes devenus kuffar. Laqad kafartum ba'da imanikum. Vous êtes devenus kuffar après votre foi, la foi apparente. Car les hypocrites ont une foi apparente, l'islam. Parce qu'ils prient, ils vont au hajj, etc. Al-Muhim. C'est pour ça, toute personne qui se moque d'un verset ou d'un hadith ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses cheveux, de sa taille, de sa barbe, de façon de s'habiller, il est devenu kafir. Au point où, les savants ont dit, si jamais en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dis, mais lui aussi il urine. Ils ont dit, tu es devenu kafir. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam urine et fait aussi les grands besoins. Il va aux toilettes, non seulement il urine, mais il fait aussi les grands besoins. Et même si c'était dans le Coran, que yani, il mange et il va dans les marchés. Pourquoi il a dit il mange? Pour te dire que celui qui mange, il doit aller aux toilettes. Mais, pourquoi tu as dit cela? Si tu as dit cela pour montrer aux gens, par exemple, que le prophète, par exemple, c'est un être humain comme nous, il mange, il boit, il a besoin de dormir, il a besoin de désir avec ses femmes. Mais Alish, tu es en train d'informer les gens comment qu'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais maintenant, si tu dis l'urine dans le sens de yani quelque chose de pas bien, celui-là c'est quelqu'un qui urine. C'est quoi? Là, la personne est devenue kafra audoubillah à cause de la niya, le contexte avec lequel tu as dit qu'il urinait. Le contexte, là. Al-Muhim, ça c'était quoi? La cinquième sorte de mécréance. Maintenant donc, vous êtes d'accord avec moi qu'on va aller à la deuxième sorte de mécréance, qui est, comme vous l'aurez sûrement deviné, la mécréance mineure. Maintenant, la mécréance mineure. Voyez. La deuxième sorte, la mécréance mineure, al-asghar, al-kufr, al-asghar. Cette deuxième sorte ne fait pas sortir de la religion. Elle est définie autrement comme, ça s'appelle, la mécréance par les actions. Kufr al-amal. Naam. Mécréance, qui est la petite mécréance, naam, c'est la mécréance des actions. Ce qu'on fait comme action. C'est pas ce qu'il y a dans les cœurs. Qui concerne les péchés cités dans le Coran et la Sunna comme mécréance. Mais qui n'arrive cependant pas au stade de mécréance majeure. C'est le cas par exemple de l'ingratitude vis-à-vis d'un bienfait. Ce qu'on appelle kufr ni'ma. Comme il a été cité dans le verset qui suit. Allah Ta'ala dit: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. Ensuite il a dit, فكفرت مكرونس مكرو فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. 1612 عفوا. Allah Ta'ala propose en parabole une ville. Il parle d'une ville. Cette ville était en sécurité, tranquille. Sa part de nourriture lui venait de partout. Puis elle se montra ingrate au bienfait d'Allah. Alors Allah lui fit goûter la violence de la faim et la peur en punition de ce qu'il faisait. C'est dommage, je dis c'est dommage. Pourquoi? Ici, dans cette traduction du verset, traduction yani approximative, qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit, puis elle se montra ingrate au bienfait d'Allah. Donc ici, elle se montra ingrate, c'est tout. Mais en arabe, non. Non, en arabe, il n'a pas dit elle se montra ingrate. Il a dit fa kafarat, kafarat. Le mot mécroire, le verbe mécroire, mécréance. Il a dit fa kafarat. Donc c'est pour ça que, yani, quelqu'un qui va lire en arabe, il va dire il y a le mot kufr, fa kafarat. Mais il ne sait pas que le kufr ici, c'est le petit kufr, c'est-à-dire d'être ingrat. D'être ingrat. Allah Ta'ala a dit qu'elle était en sécurité, mashallah, sa part de nourriture lui venait de partout en abondance. Alors, elle se montra ingrate. Fait kafarat. Donc, quelqu'un qui va lire en français, il ne va pas trouver de problème. Il va dire se montra ingrate. Mais il faut lire en arabe. En arabe, il a dit fa kafarat. Kafarat, il y a le mot kofr. Mais il faut savoir que ce n'est pas le grand kofr. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala a parlé d'abord des ni'ma. La ni'ma de la sécurité, tranquille, et la ni'ma de la nourriture qui t'arrive de partout en abondance. Ensuite, toi, tu deviens ingrat. Donc, tu as fait le coffre de la ni'ma, le coffre des bienfaits. Alors, Allah Ta'ala, il leur a montré en leur donnant quoi? En leur faisant goûter la violence de la faim et la peur. Naam. Comme a dit Allah Ta'ala dans un autre verset que vous connaissez tous. At'amahum min ju' wa aminahum min khawf. Qui ne connaît pas soit le verset de Ilafi Quraysh? Il a dit At'am min ju'. Il leur a donné à manger, yani rassasié de faim. Ou aminahum min khawf. Et yani leur a refoulé, éloigné d'eux, quoi, la peur. Il leur a donné la sécurité. Il n'y a pas de grande ni'ma comme quoi? Comme que tu vives en sécurité. Et que le rizq te vienne en abondance. Ce sont vraiment deux grandes ni'mas. Surtout, celle de la sécurité. Ceux qui vivent, vécu dans des pays où il y a ce qu'il y a maintenant, comme en Syrie, et comme ce qui se passe au Yémen, avec les Houthis, l'Ada Sunna wa l'Ada Allah. Et comme ce qui s'est passé en Algérie et ce qui s'est passé aussi ailleurs, savent ce que c'est la ni'ma de la sécurité. Ceux qui n'ont jamais vu, ou plutôt vécu cela, ne savent pas. Ils ont ouvert les yeux, ils se sont trouvés toujours en sécurité. Donc n'ont pas yani, ressenti la ni'ma. Tu ouvres tes yeux, tu es né dans une famille de richissimes, de grands richards. Tu ne sens pas c'est quoi la ni'ma. Tu dis ça c'est normal. Je mange toujours comme ça, les poissons et les quoi. Il y a tout, les voitures toujours 2-3 à ma portée, des maisons partout. Mais si tu jamais tu es été yani, pauvre, tu avais goûté la pauvreté, tu aurais su c'est quoi la ni'ma du rizq. Non. J'ai pas compris la relation, Whisper. J'ai pas compris la relation. El Mouim. Qu'est-ce qu'il a dit ici? On parlait de quoi? On parlait de. On vient un peu marche arrière, on parlait de quoi? On parlait de Allah Ta'ala. Je crois que. Rappelez-moi du verset 3. Non. C'est pas de cela que je parlais. Pas, non. Je parlais maintenant le titre. Le titre, on était quoi? Dans quel titre? On était dans quel titre? On était de la mécréance, je crois, mineure. On avait terminé là. Kofr al-Ni'ma. Naam. Voilà. On donnait des. La deuxième sorte, barakallahu avec la mécréance mineure. Comme, par exemple, le fait de quoi? D'être ingrat vis-à-vis des bienfaits. L'ingratitude vis-à-vis des bienfaits, ça rentre quoi? Ça rentre dans le coffre. Le coffre, le petit coffre, coffre mineur. Maintenant, ça me rappelle un hadith que vous connaissez tous, je suis sûr. Surtout les femmes et les sœurs connaissent ce hadith, c'est sûr. Où le prophète, alayhissalam, a dit une fois, Talatu finnar, j'ai jeté un coup d'œil dans le feu. J'ai vu que la plupart, c'était quoi? Dans le feu, c'était les femmes. On lui a dit, pourquoi, Rasulallah? Il a dit Yekforna, Yekforna. Elles font de la mécréance. Ils ont dit à Rasulullah, font de la mécréance. Il a dit Naam. La mécréance. Ensuite, il a expliqué que ça veut dire la mécréance. Il a dit Yekforna l'Ashir. Naam. Elles sont ingrates, Naam, avec, yani, ils ont leurs époux. Ce qu'il a expliqué, il a dit si jamais il lui donne tout, yani, toute sa vie, il lui donne tout ce qu'il a. Non, s'il l'énerve, voulait, il va dire il m'a jamais rien donné une chose. Il m'a jamais donné. Donc ici, il a montré que c'était quoi? Il a dit Yakforna al-Ashir. La mécréance de l'Ashir. L'Ashir, c'est le fait de vivre avec son mari, etc. Non. Donc s'il avait dit seulement Yakforna, s'il avait dit seulement une fois la mécréance, ça veut dire la grande mécréance. Mais ici, il a dit la mécréance des bienfaits. Le bienfait du mari, il a dit. ces sept mécréances qu'elles font. On a compris, alhamdoulilah, que c'était une mécréance mineure. Car il n'a pas dit seulement mécréance, mais il a dit mécréance achir. Naam. Alhamdoulilah. Taïb. Rentre aussi dans la mécréance mineure. Le fait, par exemple, de combattre un musulman. Combattre un musulman. Exemple, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Sibabul muslim fusuq wa qitaf. Bukhari muslim. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, insulter un musulman est une perversion et le combattre est une mécréance. T'es un musulman est une perversion. Et combattre un musulman, non. Si quelqu'un ne sait pas qu'il y a deux sortes de mécréance, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire combattre un musulman est une mécréance. Donc si jamais deux musulmans se combattent, ce sont des kofars. Comme ça, il va croire. Pourquoi? Il ne sait pas qu'il y a deux sortes de mécréance et que le fait de combattre un musulman rentre dans la petite mécréance mineure, pas la grande, majeure qui fait sortir de l'islam. La preuve, l'insulter, tu deviens seulement pervers. Non. Et le combattre, t'es un peu plus haut, mais ça ne fait pas pour sortir de l'islam. Quand est-ce que ça fait sortir de l'islam si je combats un musulman? Si je le combats à cause de sa religion. Vous avez compris? Je combats un musulman à cause de sa religion, à cause de l'islam, pour que l'islam, yani, s'abaisse. Non, pour faire rabaisser l'islam. Non. Dans ce cas, je suis devenu kafir, le grand kofr, qui fait rentrer éternellement en enfer, car j'ai combattu en cette personne l'islam. Mais maintenant, je combats un musulman pas à cause de l'islam, à cause de, yani, le tort qu'il fait, le mal qu'il fait, et tout ce qu'il fait. C'est un peu comme j'ai cité une fois, lorsque par exemple, les Irakiens sont rentrés au Koweït. Non, les Irakiens, c'est des musulmans. Mais est-ce que tu le laisses rentrer dans ton pays et te prendre tes biens et tes femmes et brûler tes maisons? Et il fait la zina avec ta fille et ta soeur. Est-ce que tu acceptes? Je le combats. Je le combats. Est-ce que quand je le combats, je suis devenu kafir? On va voir si je l'ai combattu à cause de l'islam, parce qu'il veut propager l'islam, je deviens kafir. Mais maintenant, celui-là, je le combats, yani, je le combats avec Sharia. C'est la Sharia qui m'a dit de le combattre. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas dit dans un hadith authentique que si quelqu'un voulait te prendre, yani, tes biens, que si tu combattais, s'il meurt, il va en enfer. Et que si tu le combattais, qu'il te tuerait, tu es au paradis. Qui ne connaît pas ce hadith? Donc, dit ici, insulter un musulman, combattre est une mécréance, ça veut dire le combattre sans raison. Sans raison. Le combattre pour, par exemple, lui prendre son argent. Le combattre pour, par exemple, le voler, l'escroquer, l'agresser. Dans ce cas, c'est une mécréance, une petite, bien sûr. Mais si je le combats pour me défendre, je l'ai combattu avec la charia. C'est Allah Ta'ala qui m'a dit de le combattre et le prophète alayhi salam qui m'a dit de le combattre. Voyez. Ça, c'était une autre sorte de, yani, mécréance mineure. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salam a dit: La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum ba'd. Naam, yadribu ba'dukum ba'd. Bukhari Muslim. Ne retournez pas la mécréance après moi en vous entretuant. Si quelqu'un, comme on a dit tout à l'heure, ne sait pas qu'il y a deux grandes mécréances et n'est pas un talibouin, si jamais il voit deux musulmans s'entretuer, il va dire que ce sont des kofars, ils sont devenus kofars. Car le hadith a dit, ne retournez pas au kofr. Après moi, en faisant quoi? En vous entretuant. Donc si vous vous entretuez, vous êtes des kofars. Comme ça, il va dire. Naam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tayyib. On va mettre autre chose. Et parmi les choses qui rentrent aussi dans la crainte mineure, le juré par Allah Azza wa Jal. Car le prophète Islam a dit, Man halafa bi ghayri Allah faqad kafara aw ashrak. Hadith authentique. Naam. Quiconque jure par autre qu'Allah, a mécru ou associé. Sahih Tirmidhi. Quiconque jure par autre qu'Allah, a mécru ou associé. Celui qui ne sait pas que c'est de la petite mécréance ou du petit shirk, si jamais il va entendre quelqu'un jurer par autre là, il va dire celui-là, khlas, il a mécru. Donc, sa femme est divorcée. Naam. Si jamais il meurt, on ne le lave pas sur lui et on va l'enterrer dans le cimetière des chrétiens ou des juifs. Pourquoi? Parce qu'il a juré par autre qu'Allah. Et il ne sait pas quoi, que c'est seulement une mécréance mineure. Certes, ça ne veut pas dire quand on dit c'est une mécréance mineure ou bien une petite association que c'est pas grave. Non, c'est un grand péché. Mais ce n'est pas le péché majeur qui fait sortir de l'islam. Car si on dit fait sortir de l'islam, ça veut dire sa femme déjà, il ne peut plus la toucher. Et s'il meurt, on le lave, on ne prie pas dessus. Il n'hérite pas. On ne l'enterre pas avec les musulmans. Donc c'est très grave. C'est très grave si maintenant on ne discerne pas entre yani, le coffre majeur et mineur. L'association majeure et mineure. Et comme ça. Allah Azza wa Jal a considéré celui qui commet un péché majeur comme croyant. Il faut bien savoir cette chose. Allah Ta'ala a considéré que celui qui fait un péché majeur, c'est-à-dire mécréance mineure ou association mineure, c'est ça péché majeur, il l'a considéré comme croyant. Il a dit dans le Coran, Azza wa Jal, Ya ayyuha alladhina amanu, kutiba alaykum al-qisas fi al-qatl. بالحر والعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان بقرة 178 c'est-à-dire suivez bien les croyants vous les croyants on vous a prescrit la loi du talion au sujet des personnes qui sont tuées homme libre pour homme libre si quelqu'un tue un homme libre n'am tue l'homme libre, l'autre qui l'a tué à sa place. Pour esclave. Femme, une femme a tué une femme, on tue l'autre femme. Mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. Que veut dire ici Allah Ta'ala et c'est quoi le sujet, c'est quoi le témoin du cours? Le témoin du cours, Allah Ta'ala est en train de parler des qui ont tué. Tué, c'est quoi? C'est un grand péché. Tu as tué. Et tout à l'heure, le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quand deux personnes s'entretuent. C'est de la mécréance. Ça. Donc, d'après certains, il est kfirion. Donc, ceux qui s'entretuent. Et pourtant, Allah Ta'ala a dit s'ils s'entretuent, alors on tue l'homme qui a tué, la femme qui a tué, l'esclave qui a tué. Et il a dit voilà le témoin du cours. Celui qui est celui à qui son frère aura pardonné. Il l'a appelé frère. Le kafir n'est pas ton frère. Le kafir n'est pas ton frère. Celui-là, il t'a tué, et Allah Ta'ala l'a appelé ton frère. Il a dit, pardonne, tu pardonnes frère. Donc, il est toujours musulman. Donc, le hadith qui a dit, si deux musulmans s'entretuent, sont des kofars, il voulait aller petit coffre. La preuve, il l'a appelé son frère. Naam. Et le kafir n'est jamais ton frère. C'est seulement le musulman qui est ton frère. Naam. Donc, Allah Ta'ala n'a pas exclu l'assassin d'entre les croyants. Et il l'a déclaré comme frère de celui qui a le prix du sang. Et il a dit aussi dans un autre verset très clair. Wa in ta'ifatani min al-mu'minin iqtatalu. Naam. فَصْلَحْلِحُ بَيْنَهُمَا 49.9 très clair le verset. Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Faites la conciliation entre eux. Mais elle. Ensuite il a dit, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةَ فَأَصْلِحُ بَيْنَهُمَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 49.10 Les croyants ne sont que des frères. Est encore d'entre votre frère et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Donc, plus haut, verset 9, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Deux groupes de croyants se sont combattus. Ensuite, il a dit, les croyants ne sont que des frères. C'est-à-dire, même après quoi? Après, ils se sont combattus et sont tués et se sont entretués. Il a dit, ce sont toujours des frères. Établissez la concorde entre vos frères. Et il n'y a pas de fraternité entre le musulman et le mécréant. Donc, ce qui prouve que ils n'ont pas fait de créance. Non. Maintenant, on va voir, inshallah ta'ala, les différences entre la mécréance majeure et la mécréance mineure. Ou alors, si vous voulez, les principales. Non, les principales, disons, les principales différences. Principales différences entre la mécréance majeure et la mécréance mineure. Bi'idhnillahi ta'ala. 1. La mécréance majeure fait sortir de la religion, contrairement à la mécréance qui ne fait pas sortir de la religion et n'annule pas les bonnes actions. Car la mécréance majeure m'en fait sortir de la religion, mais aussi annule les bonnes actions. Quant à la mécréance mineure, elle ne fait pas sortir de la religion et n'annule les bonnes actions. Quoiqu'elle diminue la récompense et expose celui qui met au châtiment, bien sûr, s'il ne se repent pas. Ça, c'est la première principale différence. La deuxième, celui qui fait la mécréance condamné à rester éternellement en enfer. Tandis que celui qui fait la mécréance mineure n'y demeurera pas s'il y entre. C'est-à-dire que celui qui fait la mécréance majeure et meurt sans faire le repentir va rester éternellement et ne sortira jamais, n'ira jamais au paradis. Tandis que lui qui fait la mécréance mineure, s'il n'a pas fait le repentir et qu'il est mort, ou bien Allah Ta'ala lui pardonne ou bien lui pardonne pas. C'est Allah Ta'ala qui décide. Maintenant, si jamais il lui pardonne pas, qu'est-ce qui va se passer? Il va rentrer en enfer, mais il viendra le jour où il sortira. Même s'il va rester 100 ans, 200, 300, 1 milliard d'années, viendra le jour où il va sortir. C'est-à-dire pour rentrer au paradis. Non. La troisième différence principale, ce qui m'a étonné, c'est que dans le livre que je suis en train, sur lequel, ou là, je suis, le dogme du monothéisme, de qui? Attendez, de qui? On l'a dit déjà une fois. Hein? Dar al-Hadith. Non. Dans le Hadith, Bruxelles 2005, Tayyip, traducteur, département des traductions. Ce qui m'a étonné, quand ils sont arrivés à la troisième principale différence, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait comme ça. Attendez, ils ont écrit 3, 3, ensuite ils ont fait ça, puis ils ont fait ça. Voilà qu'est-ce qu'ils ont écrit comme troisième principale différence. Moi, j'ai dit, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il y a? Heureusement que j'ai le livre en arabe. À chaque fois que j'ai des doutes dans quelque chose ou là, un mot qui ne me plaît pas en français, je vais voir en arabe. Est-ce que vraiment, il lui a donné vraiment son sens? Ici, j'ai trouvé que ils n'ont pas écrit la troisième principale, ils l'ont sauté. Pourquoi? Ou bien de peur, ils disent on va s'attirer des ennuis, ou bien ils ont été complexés. Et on ne peut pas dire ça en viché des. En viché. Voilà, ou bien censuré par l'État, ou bien ils disent on vit parmi des musulmans, etc. On ne peut pas dire ça. Mais moi, je vais vous le dire, puisque j'ai l'autre en arabe. Non. Mais ce qui ne m'a plu en eux, c'est qu'au moins, ils ont écrit qu'il y avait un troisième mot, qu'il y avait des points comme ça. S'ils n'avaient pas écrit comme cela, et quelqu'un n'avait pas le livre comme moi en arabe, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire donc, il va sauter à troisième, il va dire que il y a autre chose, car ils ont cité autre chose, c'est-à-dire en quatrièmement. Donc voilà le troisième mont qu'ils ont sauté. La mécréance majeure rend licite le sang et les biens de celui qui s'y livre, contrairement à la mécréance mineure. La mécréance majeure rend licite le sang et les biens de celui qui s'y livre, contrairement à la mécréance mineure. Ça a besoin d'être bien expliqué. Sinon, personne ne va vraiment s'égarer. C'est ce qui est arrivé au Tkfirion, bien sûr. La mécréance majeure rend licite le sang. Quand on dit rend licite le sang, ça veut dire que tu peux tuer le kafir, qu'il a fait une mécréance majeure. Et la mécréance majeure rend licite son sang. Et ça veut dire aussi que tu peux lui prendre ses biens. Car ces biens sont devenus licites. C'est pour ça que les Tekfirions disent, moi le kafir, moi, hein, je lui coupe sa tête et je lui prends sa voiture et tout son argent. Et je le vole. Moi le kafir, quand je marche dans la rue, y a un jeune devant moi, si je peux, je lui prends son portefeuille. Je le lui vole. Pourquoi c'est permis? Je rentre dans un supérette ou un supermarché, s'il n'y a pas de camion, ce qui est possible de le prendre. Il te dit pourquoi? Il te dit le kafir, son sang est permis, il est permis. Ou zina avec les kafiras, c'est. Non, voilà, ça aussi. Tu dis c'est une kafira et la kafira, en islam, on la prend comme butin. Donc il a assouvi toutes ses passions. Zina, il fait aussi même l'usure, riba. Tu dis on est pas dans un état islamique. Et. Il fait tout ce qu'il veut, ensuite il. C'est ça l'islam. Un mohim. Je dis. C'est bien d'expliquer cela, il faut bien connaître ça, c'est très important. Très important. En fait, le kafir, le mécréant en islam, il y a deux sortes. Il y a deux sortes. D'abord, il y a le mécréant de souche. Petit a. Le mécréant, ou bien petit 1. Petit 1. Le mécréant de souche. Petit 2, le mécréant par apostasie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été toujours mécréants, qui ne sont jamais rentrés en islam. On les appelle mécréants de souche. Et il y a des gens qui, il est rentré en islam, c'était un musulman, peut-être un mois, peut-être 20 ans. Ensuite, un jour, il a quitté l'islam. Il est devenu mécréant. Mais on l'appelle quelqu'un qui a apostasié. On dit il a apostasié. Voilà. Le mécréant de souche est mieux que le mécréant d'apostasie. Pourquoi? Car le mécréant de souche, même s'il va être éternellement en enfer, mais il a cette excuse que quoi? Il n'a pas connu l'islam. Tandis que le mécréant d'apostasie, vraiment grave pour lui quand il rencontre Allah Ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il a connu l'islam. Il a connu la ni'ma de l'islam. Il a connu les bienfaits de l'islam. Et ensuite, il n'a pas accepté la vérité, n'a pas accepté la lumière. Il a dit, je choisis les ténèbres. J'aime vivre dans les ténèbres. J'aime vivre avec les rats et les souris dans le sous-sol. J'aime pas le paradis. Ah, c'est un peu comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran, c'est pour ça qu'il a dit, tandis si je peux vous chercher vite un verset, une seconde pour que vous compreniez bien. Regardez ce verset. Regardez ce verset. Sal bani Israïl kam ataynahum min ayatin bayyin. Dil ni'mati min ba'di ma ja'atuh fa inna Allah shadidul 'iqab. Demande aux enfants d'Israël combien de miracles nous leur avons apportés. Or, donc, altère, en arabe, change le bienfait d'Allah après qu'il y soit parvenu, alors Allah est vraiment dur en punition. Naam. Quiconque change, altérer, c'est changer. Change le bienfait d'Allah après qu'il lui soit parvenu. Le mécréant de souche, il lui est pas parvenu le bienfait d'Allah. Il sait pas c'est quoi l'islam. Celui-là, il a su c'est quoi l'islam. Subhanallah. C'est quoi la grande ni'ma. Ensuite, il a préféré changer. Celui-là, Allah Ta'ala est vraiment dur avec en punition. mission. C'est pour cela que celui-là doit être tué. En islam, c'est comme ça. Quand quelqu'un apostasie, le juge, il entend parler de lui, il ramène, il le tue. Il n'a pas pour... C'est possible de vivre comme ça après avoir connu toutes ces ni'amas. Et maintenant, il connaît même les secrets de l'islam. Des musulmans et de l'islam, il a vécu avec eux, entre eux. Hein? Il connaît même maintenant comment être des arguments aux autres. Comme quoi l'islam est faux, etc. Il connaît des versets comme ça. Non. Par exemple, une chrétienne qui, par exemple, s'est reconvertie en islam. Disons, avant de se reconvertir, c'est mieux, elle ne s'est pas reconvertie. Le musulman, vous savez, il lui est permis de se marier avec une chrétienne. Même sans reconversion. Elle dit, moi, je reste dans mon dîne, il lui dit, ça ne fait rien, on se marie. Permis de se marier avec une chrétienne ou bien une juive. Ensuite, Nam, yani, elle a apostasié. Ensuite, elle est rentrée en islam. Elle est rentrée en islam. Ensuite, elle a apostasié en ce sens que elle a dit je redeviens chrétienne. Après qu'elle soit devenue musulmane, elle dit je reviens à ma première religion, la religion de mes parents. Nam, et puisque l'islam permet de vivre avec une chrétienne. Donc qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, c'est interdit, c'est devenu zina. Pourquoi? Parce qu'auparavant, quand elle était chrétienne, avant de rentrer en islam, c'est permis de se marier avec elle. Et maintenant qu'elle est en islam, et sortie, elle a apostasie. Elle est devenue mécréante. Ce n'est plus une chrétienne. C'est interdit de rester avec elle. On doit vite se séparer, chacun va de son côté. Elle va dire non, je suis chrétienne. On lui dit non, tu n'es pas chrétienne. La chrétienne, c'est celle qui n'est pas encore entrée en islam. Mais maintenant, après être entrée en islam, et qu'est-ce que tu as fait? Tu as apostasié. Tu as quitté l'islam. Et le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Quiconque change sa religion, tuez-le. Donc ça veut dire, bon, je ne vais pas te tuer, mais ça veut dire tout simplement que tu as apostasie, on ne peut pas vivre ensemble. El-Mouhim. On revient, je disais. Je disais que le kafir, ou bien les kafirs de souche, ou bien kafir par apostasie. Par apostasie, c'est beaucoup plus grave, je l'ai expliqué. Ensuite, le kafir de souche. Le kafir de souche se divise en quatre sortes. Quatre sortes. Naam. On a le dhimmi. Dhimmi, c'est celui qui paye l'impôt. Paye l'impôt chez les musulmans. Il te dit, je vis sous la protection des musulmans. Sous l'égide des musulmans. Ah, celui-là, si jamais quelqu'un le tue, le prophète islam a dit, il n'ira pas au paradis celui qui le tue. Le musulman qui tue ce genre de dhimmi. Ah, si tu le tues, lui, c'est un kafir, toi tu es un musulman. Si tu le tues, tu n'iras pas au paradis. Il a dit le hadith, tu ne sentiras pas l'odeur. C'est comme je vous ai dit une fois, supposons que les musulmans vont faire la conquête de Rome. Comme à la fin du monde, il y aura la conquête de Rome. Ensuite, eux, les Romains, etc., ils disent quoi? Ils disent, on jette les armes. On jette les armes. On va dire, bon, c'est l'islam qui va commander. La terre appartient à Allah, les hommes appartiennent à Allah, et le jugement appartient à Allah. Seuls les musulmans doivent commander. Mais maintenant vous êtes libres, vous les Romains. Vous voulez vivre avec nous en terre d'islam? C'est possible. Vous payez un impôt et vous êtes protégés par l'islam et les musulmans, et par le juge et le président de la République musulman. Et si jamais quelqu'un vous vole, vous tue, vous, non, yani, il ne sentira pas l'odeur du paradis s'il vous tue. Vous avez compris? S'il vole pour déposer plainte, ou on lui coupe la main, ou il ira en prison, ou. El-Moum, celui-là s'appelle le dhimmi. Le dhimmi, c'est un kafir qui paye les impôts et vit sous l'égide du musulman. Un dhimmi, un, le dhimmi. Il faut chercher ensuite en français comment ils l'ont appelé, je ne sais pas. Moi, je vous dis en arabe. Deux, écrit Amallah. Deux, attendez, on va lui donner un nom, hein, si on peut lui donner un nom. Celui qui Yani, c'est un kafir, toujours kafir de souche, mais il fait une trêve ou bien un pacte avec les musulmans. Il fait un pacte avec les musulmans. C'est un peu comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait avec qui? Avec les kuffars de Quraysh. Il a dit le fameux pacte de Hudaybiyah. Pendant 10 années, on ne fait pas de guerre. Pas mal là, tu es avec moi? Pas mal là. Je ne sais pas s'il est là, Tamallah, ou il est sorti. Naam. Alhamdulillah. Donc, il fait un pacte avec les gens. On l'appelle en arabe de, Naam. Afoun, de, le Mu'ahad. Mu'ahad. Comme ça, il s'appelle en arabe. Le premier s'appelle le dhimmi, celui-là s'appelle le mu'ahad. Il y a le mot, le mot ahad. On lui a donné un ahad, un pacte. Naam. Il y a entre nous et lui un ahad que ni il nous attaque, ni on l'attaque. Naam. Celui-là, c'est interdit de le toucher. Quiconque le tue pendant la période où il y a entre nous et les kuffars le ahad, il n'ira pas au paradis. Taïb. Le troisième, kafir toujours bien sûr de souche, s'appelle le musta'min. 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 Le musta'min, c'est un kafir de souche. C'est un kafir de souche. Qu'est-ce qu'il veut ce musta'min? C'est un kafir qui vient dans ton pays. Ou bien c'est l'État qui l'a ramené, ou bien une personne qui l'a ramené. Moi, je ramène quelqu'un d'Angleterre, un kafir, dans mon pays, dans ma ville, ici à Blida, pour que, par exemple, il me construise ma maison. Ou bien pour qu'il me répare ma voiture. Ou bien pour que je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Je l'ai ramené. Ou bien moi, ou bien l'État le ramène. L'État ramène. C'est surtout l'État qui ramène, donne des visas et ramène des gens dans le pays. Ceux-là viennent bien sûr par des visas. Il s'appelle Musta'min du mot Amn, sécurité. Il a été sécurisé. Comme au temps du prophète, alayhi que. Comment qu'elle s'appelle la fille de Ali ibn, la sœur de Ali ibn Abi Talib. J'ai oublié comment qu'elle s'appelle. J'ai oublié maintenant son nom, il est sur mes lèvres, je n'ai pas trouvé. Omani, Omani. Il lui dit, ah, Rasoulallah, ce kafir, pour moi, je le prends comme Musta'min. Je lui donne la sécurité pendant la conquête de la Mecque. Elle a dit, celui-là, je lui donne la sécurité. Il a dit, Naam, on accepte celle que Omani lui a donné la sécurité. On l'accepte. Naam. Taïb. Celui-là, celui qui le tue, après lui avoir donné la sécurité, il n'ira pas au paradis. Imaginez maintenant, par exemple, quand quelqu'un rentre, va dans un pays, je vais en France. D'Algérie, je vais en France. Naam. Ou disons le contraire. France, un Français va venir en Algérie. Quand il arrive à l'aéroport, qu'est-ce qu'on lui donne? D'abord, avant cela, il va aller à l'ambassade d'Algérie en France et on va lui donner un visa. Qu'est-ce que ça veut dire un visa? Ça veut dire on a accepté que tu ailles dans notre pays et, entre autres, entre parenthèses, sans le dire, mais ça veut dire ça. Et voilà, et tu seras là-bas en sécurité. Ensuite, il arrive ici en Algérie, il descend à l'aéroport, on va lui cacher sur son passeport. Ça veut dire, Naam, tu es réglo, rentre dans notre pays, rien ne va t'arriver. Il est rentré comme Musta'min en sécurité. Et toi, tu vas le tuer. Tu vas le tuer, tu vas dire, celui-là, c'est un kafir. Qu'est-ce qu'il fait ici? Moi, je le tue. Naam. Alors que tu ne sais pas que c'est un musta'min parce que tu es un tekfiri, tu connais rien en islam. Tu n'as jamais appris ta religion. Hein, pour toi, le kofr, c'est kofr ikhlas. C'est un kafir, je m'en fous, moi. Il s'appelle Jean-Pierre, c'est un kafir, je le tue, c'est un ennemi d'Allah et l'ennemi du prophète. C'est comme ça que tu penses, toi. Tu ne sais pas qu'il y a le musta'min et qu'il y a le mu'ahad et qu'il y a l'autre qu'on appelle le dhimmi. Et que quiconque tue l'un de ces trois-là, après avoir fait avec eux ce qu'on appelle yani, les relations, il n'entrera pas au paradis, il ne sait pas miskin. Al-Muhim. À part ces trois, mais remarquez les trois, le dhimmi, ad et le musta'min. À part ces trois, tout kafir qui n'est pas rentré dans une de ces sortes, appelle un belligérant. C'est un combattant de l'islam. Combattant de celui-là, son sang et ses biens sont halal. Son sang et ses biens sont halal. C'est-à-dire, c'est un ennemi de l'islam. C'est un combattant de l'islam. Vous allez dire, il combat pas, il n'a pas d'armes. Il est assis dans sa maison avec ses enfants. Il est pris d'armes contre l'islam. On lui dit, c'est vrai. Mais en islam, il est considéré comme combattant. Pourquoi? Il n'est rentré ni dans le pacte de dhimmi, ni muahad, ni musta'min. Tout kafir qui n'est pas rentré dans l'un des trois est considéré comme combattant. Maintenant, si vous allez voir dans les pays du monde, vous allez trouver que la plupart des musulmans et des pays musulmans ont maintenant des pactes avec les autres nations et les mécréants. Pactes signés à l'ONU. Signés. Les pays musulmans signent que tel pays, tel pays, tel pays, tel pays, qu'il n'y a pas entre nous, par exemple. Et que s'ils viennent dans nos pays, on les accepte. Et c'est que nous, si on va là-bas, on nous accueille comme ça. Non. Non, il y a quatre sortants. Maintenant, ils sont rentrés dans quoi? Dans un de ces trois. Un de ces trois, yani de ces trois grandes sortes que j'ai citées maintenant, bi'idhnillah. De toute façon, non, pour les trêves, etc., certains ont dit. On peut faire une trêve de 10 ans et d'autres ont dit c'est l'avis le plus fort. La trêve, c'est pas obligé que ce soit seulement 10 ans, comme a fait le prophète islam avec les Quraysh, l'Hudaybiyah. C'est permis plus à condition de ne pas la limiter. C'est permis de la laisser comme ça dans l'absolu jusqu'à ce que les musulmans soient forts et sortent de leur faiblesse. Pour terminer, je vais dire, Inch'Allah Ta'ala, attendez, pour terminer le cours, je vais quoi? Je vais résumer un peu. Je vais résumer un peu le cours d'aujourd'hui, bi'idhnillah Ta'ala. Qu'est-ce qu'il a dit le... Je vais me reconnecter pour que par rapport au passage 3 qui était pas dans le livre. Naam. Passage 3, qu'est-ce qu'il a? Je pense que la censure de la part de l'État. Eh, Waqil, c'est vrai. Naam. C'est ce que je pense moi aussi. Wallah, je crois que ça vient de l'État. Non, c'est ce que je pense. Une seconde, on va résumer, Inch'Allah Ta'ala. J'attends que le programme se s'ouvre, bi'idhnillah Ta'ala, et que je me connecte dans le programme. Je me connecte dans le programme. Maintenant, on va résumer, Inch'Allah Ta'ala, ce qu'on a dit dans le cours aujourd'hui, c'est-à-dire les deux grandes mécréances, bi'idhnillah Ta'ala. Résumé. Les catégories de la mécréance, deux sortes. La mécréance majeure, le kufr al-akbar, et la mécréance mineure. Le coffre al-Asrar. 1. La mécréance majeure. Al-Asrar. Et moi j'avais cité que c'était 6. J'avais ajouté, si vous vous rappelez, par moquerie. Naam. Tayyib. La première, la mécréance basée sur le kufr takdib. La deuxième, la mécréance de l'orgueil. L'orgueil de Iblis, Iblis, la'in. La mécréance du troisième, la mécréance due au doute, appelée la mécréance par Efr al-Dhann. Ensuite, quatrième mécréance, la mécréance due au détournement, Kufr al-I'rad. Cinquième mécréance, la mécréance due à l'hypocrisie, Kufr al-Nifaq. Et enfin, la sixième, c'est la mécréance due à la moquerie. Naam. Kofr. Yani. Al-istihza. Kofr. Al-istihza. Tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est la grande mécréance. La première sorte. Maintenant, on va parler de la deuxième sorte. La mécréance du, qu'on appelle kofr. Al-asghar. Mineur. Ça peut être comme l'ingratitude vis-à-vis d'un bienfait, kufr an-ni'ma. Toutes les ni'mas, tu les nies. Ça s'appelle la mécréance du bienfait, mineur. Combattre un musulman, mais pas pour sa religion. Si c'est pour la religion, ça devient grand kufr. Naam. Ou alors, jurer par autre qu'Allah Azzawajal. Juré par autre qu'Allah Azzawajal. Naam. On avait dit que les principales différences, grande mécréance et la petite, sont la mécréance majeure fait sortir de la religion, contrairement à la mécréance mineure. Naam. Celui qui fait la mécréance majeure est condamné à rester éternellement en enfer. Tandis que celui qui fait la mécréance mineure, même s'il va rentrer en enfer, il ne restera pas éternellement. Et troisièmement, la mécréance majeure rend licite le sang et les biens de celui qui s'y livre, contrairement à la mécréance mineure. Et Naam, j'avais oublié une chose, j'avais oublié la dernière. On n'a pas parlé de la quatrième grande différence. On a oublié de la citer parce que j'étais en train de corriger tout à l'heure. D'ailleurs, la quatrième grande différence, mécréance et la petite. La mécréance majeure implique l'inimitié, le contraire d'amitié. Il y a l'amitié et son contraire. La mécréance majeure implique l'inimitié entre celui qui s'y livre et les croyants. Quant à la mécréance mineure, elle n'empêche pas de nouer une amitié dans l'absolu avec celui qui s'y livre. Nous devons lui manifester de l'amour et de l'amitié proportionnellement à son degré de foi, et devons lui manifester de la haine et de l'animosité proportionnellement à son degré de désobéissance. Je réexplique, c'est très important. Je réexplique, c'est très important. La mécréance majeure implique qu'il doit y avoir de la haine et de l'adversité entre celui qui fait la mécréance majeur croyant. Entre moi et lui, il n'y a pas d'amour ni d'amitié. Quant à la mécréance mineure, elle nouer une amitié absolue avec celui qui s'y livre. Si maintenant, pas de la preuve, il est toujours mon frère. Il a fait une mécréance mineure, il est toujours mon frère. Une association mineure, shirk. Petit shirk, il est toujours mon frère. Il a fait une hypocrisie mineure, il est toujours mon frère. Donc, n'empêche pas de nouer une amitié avec lui. Car je dois lui manifester de l'amour et de l'amitié à cause de sa foi. Et en même temps, lui manifester de la haine et de l'adversité à cause des obéissances. Vous avez compris? Je vous donne un exemple. Celui qui l'a fait. Non. Il a fait quoi? Il a fait un péché majeur. Ça rentre dans la petite mécréance, pas la grande. Naam. Il a. Je dois, d'un côté, lui attester de l'amour et de l'amitié à cause de quoi? À cause de sa foi. Je le préfère. à celui, le grand coffre. Vous avez compris, car celui-là, c'est un musulman. Mais il a fait une petite mécréance, ou bien une petite association, ou bien une petite hypocrisie. Il a fait un péché majeur, il a fait la zina. C'est toujours mon frère. C'est toujours un musulman. De ce côté-là, parce que c'est un musulman, il va au hadj, il jeûne, il prie. Pour cela, je dois toujours dire que c'est mon frère, il l'aimait. Naam. Et de l'autre côté, je dois quoi? Je dois avoir de la haine vers lui. Naam. Et de l'animosité à cause de quoi? À cause de sa désobéissance. Car il fait des grands péchés et il désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. C'est pour ça qu'il dit: Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidu awliya yastahibbu al-kufra 'ala al-iman. Wa fa'ulaika hum adh-dhalimun. 9, 23. Regardez ce verset. Oh, vous qui croyez, vous les croyants, ne prenez pas pour frère s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont des injustes. De quoi? Une mécréance. Quand quelqu'un fait la grande mécréance, père, mon frère, ma mère, ma femme, ma soeur, ma tante, nam, elle n'est plus mon alliée. Je ne dois plus l'aimer. Sauf si c'est l'amour de quoi? Amour naturel. Je n'ai même pas le droit de l'aimer. Nam, elle a fait la mécréance majeure. Ensuite, Allah Ta'ala dit aussi dans un verset très clair, il a dit: La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmi al-akhir yuwahhidu Allah wa rasuluhu kanu aba'ahum aw ikhwanahum. نعم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم مفلحون. Regardez ce verset. Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah au jour dernier, qui prennent ceux qui s'opposent à Allah et son messager, même s'ils sont leurs pères ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi, ceux-là. Il a prescrit la foi dans leur cœur. Il les a aidés dans son secours. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels. Et, etc. à la fin du verset. Il a dit, même si c'est ton père, Naam, ton fils, ton frère, quand il est devenu mécréant, Alhamdoulilah. Non, quelqu'un m'a envoyé un whisper, il m'a dit, cette édition d'Al-Hadith, je crois, qu'elle traduit des livres de Hizbi, etc. et qu'il a peur pour moi que les gens disent il lit les livres de Hizbi ou là. Non, n'aie pas peur pour moi, Inch'Allah Ta'ala, n'aie pas peur pour moi. Moi, j'ai le livre en arabe, là devant moi. Femt. Et quand je lis, Naam, voilà, et quand je lis, Naam, je corrige et je vois. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, Naam, je corrige et je rectifie. Et je rectifie. Naam, les savants ont dit que c'est pas bien de lire par exemple un livre de Hizbi ou là qui traduit. Pourquoi? Ils ont dit, ils ont montré, ils ont dit car il peut yani faire entrer des choses et donc te mettre le poison dans le miel. Mais ça c'est par rapport à qui? Par rapport à quelqu'un qui n'a pas les deux livres devant lui, par rapport à la maison. Mais Hemnish, la maison d'édition, mais Hemnish, pour quelqu'un qui a les deux livres devant lui, l'arabe, le vrai livre du cheikh, ensuite celui qui traduit, et ensuite quelqu'un qui connaît les deux langues, il les connaît bien, quelqu'un qui connaît la charia, ou alhamdoulilah, il la connaît assez bien, celui-là, tu n'as pas peur pour lui. C'est pour cela que c'est permis, même, bi'idhnillahi ta'ala, et les savants ont dit cela, c'est permis que je lise la Bible, et c'est permis que je lise aussi quoi? Que je lise la Torah, c'est permis. C'est pas permis pour un débutant, ça. Quelqu'un qui est nouveau. Inch'Allah Ta'ala, pour quelqu'un qui est bien dans sa religion, c'est permis de lire des livres pareils. Pourquoi? Si tu veux montrer quelles sont les fautes qu'il y a dans ces livres. Comment montrer quelles sont les fautes qu'il y a dans la Bible de Jean-Marc, ou je sais pas comment il s'appelle, si je lis pas son livre. Il faut que je lise le livre pour te dire voilà les fautes qu'il y a. Ce qui n'est pas bien, c'est pour quelqu'un de débutant par exemple. Naam. Voilà, inshallah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
نعم شيخ، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. La première question, chère, question d'une sœur qui dit: Chère, je n'ai pas très bien entendu. Est-ce que celui qui a fait de l'ostentation et qui par la suite se repent, ira-t-il quand même en enfer? Barakallahu fikum.
Si vous rappelez, si vous rappelez la fois passée, on avait parlé de Shirk al-Khafi. Non. On avait parlé que c'était un shirk qui avait rapport avec les volontés et les intentions, comme l'ostentation. L'ostentation. Non. De vouloir rallonger sa salat, etc., à cause des gens. Toute personne qui fait l'ostentation, ou bien n'importe quel péché, aussi grand qu'il puisse être, et fait le repentir sincère, hein, ses péchés, bi'idhnillah azza wa jalla, seront annulés. Et n'ira ni en enfer, ni ailleurs. Si elle ira, elle ira au paradis, inshallah ta'ala. Pourquoi? Parce qu'elle a fait le repentir. Hein. C'est quoi l'ostentation comparée à celui qui était bouddhiste, à celui qui était chrétien, qui disait que Allah a un enfant, et que Jésus c'est Dieu, et comme ça. Et celui-là, s'il se repent, un repentir sincère, Allah Ta'ala lui pardonne. Non. Alors que l'ostentation, à la base, l'adoration était pour Allah. Mais, non, il a voulu l'embellir ou la rallonger, etc., juste pour les gens. Non. Fadla, j'espère que c'est clair, Inch'Allah.
Barakallahu fikoum, Cheikh. Question suivante d'un frère qui dit: je voudrais savoir, si je combats un tekfiri pour sa religion, c'est-à-dire qu'il propage son égarement, donc moi je suis le prophète, alayhi salatu wassalam, sur un hadith sahih pour le combattre, est-ce que je rentre dans le kufr mineur ou majeur? Barakallahu fikum, cheikh.
J'ai pas bien compris la question. J'ai même entendu, il y avait des sursauts, je crois. J'ai même entendu dire: je suis le prophète, alayhi salatu wassalam. J'ai pas compris comment qu'il peut être le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tfadlal.
En fait, cher, c'était suivre dans le du verbe suivre, non pas être, pas l'auxiliaire être. Et donc, j'essaie de reformuler un peu la question. Donc, je voudrais savoir si je combats un tekfiri pour sa religion, c'est-à-dire qu'il propage son égarement, alors que moi, je me base sur le hadith, sur un hadith sahih pour le combattre. Est-ce que je rentre dans le kufr mineur ou majeur? Barakallahu fikoum.
Fika barakallah. Tu ne rentres ni dans le mineur ni dans le majeur. Tu rentres dans les mujahidin. Tu es un grand mujahid. Naam, car tu combats la bid'a. Tu combats l'égarement. Tu combats les ténèbres. Bi'idnillahi ta'ala. Si ta niya est bien, tu feras partie, yani, des mujahidin bi'idnillahi ta'ala, même si tu n'as pas fait le djihad à l'arme, mais tu as fait le djihad de la hujja, le djihad de l'établissement de la preuve sur les égarés, bi'idhnillahi ta'ala. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala t'aider, et t'ouvrir ses portes, bi'idhnillahi ta'ala, et te donner la victoire sur les égarés. Tfadlan.
Amin, barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'une sœur qui dit: pourquoi les hypocrites agissent ainsi? Pourquoi se qualifient-ils de croyants alors qu'ils ne croient pas? Et pourquoi ils ne sortent pas tout simplement d'islam? Pourriez-vous m'éclairer, cher? Barakallahu fikoum.
Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que les hypocrites ont fait leur apparition à Médine et non pas à la Mecque. À la Mecque, il y avait quoi? Il y avait mécréants et musulmans, c'est tout, et croyants. À Médine, il y avait qui? Il y avait des koufars. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé là-bas, après que les gens ont commencé à rentrer en islam, les koufars de là-bas ont dit: comment qu'on va faire? Maintenant, toute notre ville ici, Médine, va devenir, yani, musulmane. On va dire, on est kuffar, ils vont nous faire la guerre. On a une idée, alors on dit, on est musulmans, comme ça on est avec eux, au milieu d'eux, on se marie de leur fille, de leur femme, on partage avec eux le butin quand ils vont à la guerre, on va avec eux. Et comme ça on vit caché, alhamdoulilah, et aucun mal ne nous arrive. C'est pour cette raison qu'ils se sont cachés. C'est pour ça, yani, ils ont fait ça comme ruse. Ils ont cru que ils pouvaient feinter Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas possible. Tu peux ruser avec les compagnons, tu peux ruser avec les gens, mais pas avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait ce qu'il y a dans les cœurs. C'est pour cela que je disais que à la Mecque, il n'y avait pas d'hypocrite. Parce que là-bas, c'était clair. Naam. Je suis kafir, toi tu es musulman, on s'entre. Le kafir se sentait fort. Donc il n'avait pas besoin de cacher yani, ce qu'il avait dans le cœur. À Médine, non. Sont devenus musulmans, tu n'as plus le choix. Ben tu dis je suis kafir et on va te faire la guerre et on va avoir le dessus sur toi, ou bien il te reste devenir musulman alors que tu l'es pas, tu crois pas dans ton cœur. Il reste le milieu de feindre que tu es musulman, ça s'appelle hypocrite. Naam. Tfadlan.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'un frère qui dit: Fadilat cher, y a-t-il une demande de repentir avant l'exécution de l'apostat? Barakallahu fikoum.
Fadilat Cheikh, c'est un peu élevé pour moi. Si tu avais dit Fadilat Abi Abdillah, peut-être. Al-Muhim, Naam, les savants ont divergé sur l'apostat. Est-ce que, quand il apostasie, on l'élimine sur le champ, ou bien on lui donne 3 jours pour qu'il réfléchisse, etc. Cheikh Ibn Uthaymeen a cité ça dans son livre Sharh Bulugh al-Maram. A dit ceux qui disent on lui donne 3 jours, c'est l'avis de Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu. Il a fait comme ça avec quelqu'un qui a apostasie. Et je crois que c'est l'avis qu'a choisi Cheikh Ibn Uthaymeen, wallahu ta'ala alam, si j'ai une bonne mémoire. Naam. Tfadlan.
Comme cher. Question suivante d'une sœur qui dit: Cher, peut-on dire que tous les hommes sont entrés dans le kufr al-ibaa wal-istikbar par rapport à leur fitra dans la seigneurie d'Allah Azzawajal? Pour terminer, cher, vous nous avez toujours cité la règle qui dit que celui qui ne sait pas qu'il commet un acte, donc qui le fait sortir de la religion, ne sort pas de l'islam. En est-il de même pour celui qui rigole de la religion? Jazakumullahu khaira. Est-ce que c'est clair, cher, ou est-ce que je répète?
Ce qui n'est pas clair pour moi, c'est la première partie de la question. Je ne l'ai pas comprise.
Je vous avoue, cher, que moi non plus, donc je vais la répéter. Peut-on dire que tous les hommes sont entrés dans le kufr al-ibar ou al-istikbar par rapport à leur fitra dans la seigneurie d'Allah Azzawajal? Je ne sais pas si c'est plus clair pour vous. Sinon, je demanderai des précisions, cher.
Non, pour moi, c'est pas clair. Je réponds à la deuxième question. J'avais dit que, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, aucune personne ne sort de l'islam si elle ne savait pas que cette chose faisait sortir de l'islam. Ni aucune personne n'est dans le péché si elle ne sait pas qu'elle est dans le péché. C'est une règle générale, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Contrairement aux takfiriyin, naam, qui disent qu'il n'y a pas de, il y a pas d'excuses. Pas d'excuses. Al-Muhim. Qu'est-ce que j'allais dire? Naam. Est-ce que ça s'applique aussi pour quelqu'un qui rigole de la religion? On dit, s'il sait que c'est cette chose sur laquelle il a rigolé, c'est de la religion. Dans ce cas, il n'est plus excusé. Vous avez compris? Imaginez qu'il ait ri de la barbe en voyant par exemple quelqu'un. Il a dit, c'est quoi cette barbe? Il a ri de lui. Ensuite, on lui dit, tu sais pas que ça rentre dans le dîn et que le prophète a dit de laisser la barbe. Ah, il dit, Astaghfirullah, je savais pas. Celui-là, il est excusé. Mais sachant que, s'il sait que, en islam, il y a la barbe et que cette personne a la barbe et il rit de sa barbe. Dans ce cas, il n'est pas excusé. Voilà, il y a une grande différence entre les deux. Je ris de ta barbe en sachant que ça vient de l'islam. et je ris de ta barbe en croyant que tu es un fou, tu as laissé comme ça ta barbe. Il y a une grande différence entre les deux, Inch'Allah. Tfadlal.
Barakallahu fikoum, cher. Donc, en attendant les précisions de la sœur, question d'une autre sœur qui dit: Cher, est-ce que trop de mécréance mineure chez un musulman peut aboutir à de la grande mécréance? Jazakumullah khair, cher.
Non, ça ne peut pas. Madhab al-Sunna ou al-Jama'a. Naam. Les petits péchés, naam, les petits péchés, naam. Si tu ne fais pas un grand péché, il ne devient pas un grand péché. C'est-à-dire qu'à force de faire le petit péché, à force de faire, yani, comme disent les savants, disent, la kabira, attendez, la kabira ma'a israr, afoun, la kabira, la dhanb ma'a istighfar, wala saghira ma'a. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à force de faire les petits péchés, le petit péché, en fait, tu fais un grand, pas dans le sens où les petits sont devenus grands. Non. Non. Tu peux faire toujours gagner un petit péché, il reste toujours un petit péché, mais toi, tu t'es rempli de péchés. Maintenant, tu as gagné beaucoup, beaucoup de péchés. En ce sens, peut-être, c'est un grand péché. Mais ce n'est pas que le péché que tu as fait, il est devenu grand, à cause de le faire souvent. Non. J'ai dit que certains se sont trompés. On dit que par exemple, si quelqu'un fait beaucoup le péché, alors ça devient, c'est comme s'il l'a rendu licite. Les savants disent non, ça c'est pas vrai. Je peux faire le péché 1000 fois et je ne l'ai pas rendu licite. Car le rendre licite, ça veut dire que je suis devenu kafir. Non, si je dis tel péché est licite, ça veut dire que je suis devenu kafir. Certains ont dit que quand tu le fais beaucoup, ça veut dire que tu l'as rendu licite. On dit non, c'est pas vrai. Je peux le faire 1000 fois. Je peux faire, a'oudou billah, 1000 fois la zina, mais toujours dans mon cœur, pendant les 1000 fois, je sais que c'est haram. Donc, je suis toujours musulman. Non. Et le contraire, je peux ne pas faire la zina du tout et je deviens kafir. Pourquoi? Si je dis que la zina est halal. Ou bien je dis avec ma langue, ou bien dans mon cœur. Dit la zina c'est halal, je suis devenu kafir. Tfadlal.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'un frère qui dit: Cher, vous avez parlé de la conquête de Rome. Je voulais savoir si vous saviez quand est-ce que cela se fera. J'ai cru que vous aviez dit vers la fin des temps, wallahu a'lam, wa barakallahu fikoum, cher. Et si vous pouvez nous citer le hadith.
Le hadith dit en ce sens qu'il n'y aura pas la fin du monde jusqu'à ce que vous yani, fassiez la conquête de Rome. Donc, ça peut arriver demain, ça peut arriver dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que j'ai été envoyé moi et la fin des temps comme ceci. Et il a joint entre ses deux doigts l'index et le majeur. Le doigt du milieu. Il a levé comme ça les deux doigts et a joint entre eux les deux. L'index avec lequel on fait le teshahhud dans la salat et l'autre, celui du milieu, le grand. Il a dit, ces deux, ils sont collés l'un à l'autre. Vous voyez, hein? Celui-là suit l'autre. Il a dit la même chose. La fin du monde est venue avec moi. Nous marchons ensemble. On m'a venu, il y a la venue de la fin du monde. Donc d'ici demain, 15 jours ou une semaine, yani, tout peut yani, se terminer. Ah, mais bien sûr, ça ne se terminera pas jusqu'à ce qu'on voit tous les signes et les grands signes. Bi-idhnillahi ta'ala. Tfadlal.
Barakallahu fikoum, cher. Donc, par rapport aux précisions de la sœur, elle dit: En fait, dans la fitra de l'homme, il y a le fait que chaque homme reconnaît la seigneurie d'Allah Azzawajal. Donc, est-ce que s'il refuse de se soumettre, il rentre dans ce qu'on appelle kufr al-iba ou al-istikbar? Barakallahu fikoum, cher.
Kufr al-iba ou al-istikbar, c'est ne pas se soumettre ça s'appelle en français, tawhid, à l'unicité de la divinité, qu'on appelle en arabe tawhid al-ilahiyya ou al-uluhiyya. Et ça s'appelle aussi tawhid al-ibada. Ça a trois synonymes. Naam. Car le prophète alayhi salam a dit que toute personne qu'Allah ta'ala crée, l'a créée dans la fitra. Fitra, dans la milla, c'est-à-dire l'islam. Prête à embrasser l'islam s'il n'y avait pas ce qui l'a détourné. Les shayatines et les idées, les conceptions, les idéologies, etc. C'est pour ça qu'il a dit, ce sont ses parents qui le rendent chrétien, juif ou mazdéen. Et il n'a pas dit, ce sont ses parents qui le rendent musulman. Pourquoi? Parce qu'il est déjà né musulman. Naam. Donc voilà, inshallah ta'ala, la réponse, c'est dans la divinité, bi'idhnillah ta'ala. C'est là-bas, s'il n'y a pas unicité de la divinité, qu'on dit, il y a kufr iba wa i'rad, comme shaitan. Shaitan, qu'est-ce qu'il n'a pas voulu? Il n'a pas voulu faire l'unicité de la divinité. Il n'a pas voulu se prosterner. C'est un ordre que Allah ta'ala lui a donné. Sinon, Allah ta'ala, sinon, afwan, le shaitan sait que Allah existe et lui a même parlé. Naam, tfadhal.
Allah fait comme cher. Question suivante d'une sœur. Avant de rentrer dans le dîn, j'avais pour meilleur ami des koufara. J'ai totalement rompu avec la plupart, mais certains ne veulent pas me délaisser. Je ressens encore pour eux une certaine affection et j'ai peur que cela me fasse tomber dans le péché. Quel conseil pouvez-vous me donner, cher? Barakallahu fikoum.
Naam. Pourquoi en islam, c'est interdit de vivre dans les pays de Kofar? Pourquoi? Pourquoi il faut faire la hijra? Car, entre autres, tu peux aimer. Aimer, pas spécialement le sexe opposé, non. Une femme, un ami, et un homme pour prendre un ami, un kafir. À force qu'il voit son bon comportement, etc. Ensuite, il commence à l'aimer, lui faire des cadeaux, etc. Naam. C'est pour cela que, quand il s'éloigne des pays des kofars, il s'éloigne des kofars, il les voit plus, ils sont plus avec lui, il vit avec les musulmans, il peut pas tomber dans ce péché. El Mohim. Naam. Donc, je ne dois laisser la relation que avec le kafir, que la relation, disons, de contrainte. Si c'est la relation de travail, si c'est la relation parce que je vais chez lui, c'est un boulanger, il me vend du pain. Parce qu'il est mécanicien, ma voiture, il la répare. Et comme ça. Maintenant, si jamais le kafir veut que je sois son ami, naam, et il commence à pencher vers moi, etc., dans ce cas, je mets dans mon intention que pour que je l'invite à embrasser l'islam. Vous avez compris? Je ne mets pas dans mon intention que je vais l'aimer parce que je l'aime. C'est interdit de l'aimer. Non, mais je vais essayer de l'attirer vers l'islam. Si je lui fais un cadeau, c'est pas pour ses beaux yeux. C'est que pour qu'il dise, je savais pas qu'en islam les gens étaient généreux. Et que moi, étant mécréant, je croyais qu'ils allaient me tuer et m'enlever ma tête. Mais alhamdoulilah, celui-là, il m'a fait un cadeau. Mais toi, tu lui fais un cadeau dans le sens de qu'il dise comme ça et que il s'intéresse à l'islam et commence à poser des questions et comme ça. Ensuite, quand tu sens qu'il n'y a rien et qu'il n'y a pas de natija, ou là, tu t'éloignes de lui. Tu t'éloignes de lui, bi'idhnillahi ta'ala. Quand je dis tu t'éloignes de lui, ça ne veut pas dire que tu vas l'agresser. Non, ou bien le frapper, ou bien le poignarder, ou là. Non. Ça veut dire seulement je m'éloigne de lui, yani pour ne pas tomber dans le risque de l'aimer, etc., et de nouer une relation d'amitié. Non, tfadhal.
Barakallah fait comme cher. Question suivante d'une sœur. Dit cher, concernant la mécréance mineure, celui qui jure par autre qu'Allah, concernant la mécréance mineure de celui qui jure par autre qu'Allah, pouvez-vous nous donner des exemples? Et jurer par une autre divinité, est-ce de la mécréance mineure ou majeure? Barakallah fait comme cher pour votre réponse.
Jurer par autre qu'Allah, c'est comme certains jurent, par exemple, par la Kaaba. Beaucoup de musulmans, ils te disent, Haq al-Kaaba. Je jure par la Kaaba que je n'ai pas vu X. L'autre, ils disent, L'autre, ils disent, je jure par la tête de ma mère. L'autre, par la tête de mon père. Et comme ça. Là, ça, c'est l'association mineure, ou bien la mécréance mineure. Si on jure avec une autre divinité, et que dans mon cœur j'atteste que c'est une divinité, Dans ce cas, c'est l'association majeure, comme créance majeure. Quant à dans les autres cas, que j'ai cité les exemples tout à l'heure, la Kaaba, ma mère, mon père, ça, tout cela, j'ai juré par des créations. J'ai dit que ceux-là, ce sont, ils ont été créés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc j'ai délaissé Allah, le Créateur, et j'ai juré ce qui ont été créés. Les choses qui ont été créées, seul Allah peut jurer avec ces choses. Comme dans le Coran, il dit Wadduha, ou Shemsi Wadduha, ou Layli, ou Fajr, ou Layalin Ashr. Et comme ça, ce sont, il est en train de jurer avec des choses qu'il a créées. Seul lui, il peut faire cela. Nous, on doit yani, jurer seulement avec le Créateur, par le Créateur, Bidlillah Ta'ala. Je redis, si maintenant je jure avec une autre divinité, là, et en mettant dans le cœur que c'est une divinité, je suis sorti de l'islam. Tfadhal.
Barakallah fikoum cheikh, juste pour la faïda, est-ce que vous pouvez, parce que ça se fait beaucoup en France, si vous pouvez nous expliquer le hukm de jurer par le Coran. Car en France, ils disent beaucoup je jure par le Coran, voire par le. Certains disent je jure par le Coran de la Mecque. Donc si vous pouvez nous dire ce qu'il en est, cheikh.
Est-ce que tu as dit je jure par le Coran de la Mecque? Que tu as dit comme ça?
En fait, cheikh, oui, beaucoup disent je jure par le Coran, et beaucoup de jeunes qui, pour la plupart, sont loin du dîn, disent je jure par le Coran de la Mecque. Donc, savoir ce qu'il en est, cheikh.
Non. Pour tout à l'heure, quand j'ai dit que celui qui jure avec une autre divinité. Si quelqu'un va dire le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que si quelqu'un jure avec l'Uzza ou Lat ou l'Uzza, qu'il dise la ilaha illallah, c'est hadith authentique. Naam, il a dit seulement qu'il dise la ilaha illallah. Ça c'est dans le sens dans le sens où il a juré, par exemple par habitude. Il a dit la phrase comme ça, sans le vouloir, ou bien il avait l'habitude. Mais il n'atteste pas dans le cœur que c'est une vraie divinité. C'est une vraie divinité. El-Mouhem, juré par le Coran et juré par le Coran de la Mecque. Premièrement, celui qui dit je jure par le Coran de la Mecque, il a ajouté de la Mecque, ça se voit miskine que il est vraiment loin du dîn, car il croit que le Coran yani, se trouve à la Mecque. Vraiment, yani, il est vraiment loin. El-Mouhem, juré par le Coran. C'est possible et ça se fait waynaqid et c'est valide à condition, dit les savants, que tu entends par le Coran ce qu'il y a écrit comme verset à l'intérieur et ce n'est pas la couverture et les feuilles qu'il y a à l'intérieur. Vous avez compris? Car la parole d'Allah qui est dans le Coran, la parole d'Allah écrite, la parole d'Allah qu'il y a dans le Coran, ce qu'il y a écrit plutôt, c'est la parole d'Allah. Et la parole d'Allah, hein, c'est une sifa, c'est un attribut, Allah Azzawajal. Et le kalam, c'est un attribut de l'entité, c'est-à-dire de l'essence, et un attribut de quoi? Un attribut de l'acte. Naam. De par son origine, c'est un attribut, yani, de l'acte, enfin de l'entité. Et de par le fait que ça se renouvelle, c'est un attribut de l'acte. C'est pour ça que les savants disent. الكلام كلام الله تعالى قديم النوع حادث الأحد قديم النوع حادث الأحد à sa base نعم c'est يعني un attribut de l'essence qui a toujours été avec Allah Ta'ala la parole et si on voit que ça se renouvelle donc c'est un attribut de l'acte المهم jurer avec le Coran si on veut dire par là la parole d'Allah c'est permis بإذن الله. Si on ajoute de la Mecque, ça ne change rien, c'est toujours permis, mais ça montre que c'est vraiment un djehl. Un djehl, afwan.
Cheikh, à moins qu'il soit alim, mais qu'il sache quels versets ont été descendus à la Mecque et les versets médinois. Sinon, question suivante d'une sœur qui dit, si une sœur est mariée à un homme né musulman, mais il ne prie pas et ne pratique pas, est-il mécréant et doit-elle rester mariée avec lui? Barakallahu fikoum, cheikh.
Les savants disent ce n'est pas permis à une femme de vivre avec quelqu'un qui ne fait pas la prière. Naam. À la rigueur, s'il la fait de temps en temps et la délaisse de temps en temps, et qu'elle veut patienter avec lui à cause des enfants et pour lui faire la dawa et pour yani qu'il se redresse, il se corrige, malish, pour voir yani le temps qu'il se corrige. Sinon, s'il abandonne carrément la salat ou n'a jamais prié, c'est interdit qu'elle reste avec lui. Nam, il n'a pas le droit de l'approcher. Nam, tfadl.
Barakallah fikoum, cher. Si vous pouvez, cher, mettre juste le lien, comment bloquer ces PV. Barakallah fikoum. Et je vous pose la question, suivante question d'un frère qui dit: moi, je n'ai pas compris, cher, lorsque cher a dit la mécréance majeure rend licite le sang et les biens de celui qui s'y livre, contrairement à la mécréance mineure. Je crois, wallahu a'lam, qu'il a dit que c'est les tekfiri qui disent cela. N'est-ce pas, cher, ou ai-je mal compris? Barakallahu fikoum de m'éclaircir, wa hayakoum Allah, cher. Barakallahu fikoum pour les liens.
Non, je ne parlais pas des takfiri. Je parlais de Al-Sunna ou Al-Jama'a. Mais c'est dommage que la personne a entendu seulement cette phrase et n'a pas entendu toute l'explication que j'ai donnée après, c'est-à-dire un quart d'heure ou 20 minutes, où j'ai expliqué que la mécréance majeure, ça rendait licite son sang, et c'est bien, mais à condition qu'il fasse partie de la quatrième catégorie, qui est la catégorie des belligérants, des combattants, ceux qui combattent l'islam. Contrairement à ceux qui sont des dhimmi, ou bien mu'ahad, ou bien musta'min. Ces trois-là, quiconque tue un d'eux ne sentira pas l'odeur du paradis. Donc là, cette personne, inshallah ta'ala, devrait revenir au cours qui sera, inshallah ta'ala, bientôt sur le site bi'idhnillahi ta'ala. Tfadl.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'une sœur qui dit: Hayakum Allah jami'an. Cher, quand on prolonge la prière ou qu'on fait du dhikr en voyant une personne, mais pas pour elle, plutôt car cette personne nous rappelle Allah Azzawajal, et donc on se souvient de craindre Allah au moment où on la voit. Est-ce que cela entre dans l'ostentation? Car des fois, certains wasawis accompagnent mes actions, accompagnent ces actions. Mais ce ne sont que des sentiments. L'intention au départ était bien pour Allah, mais c'est cette personne qui nous l'a rappelé en la voyant. Barakallahu fikoum, cher.
Rassure-toi, inshallah ta'ala, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith qui se trouve dans Sahih al-Jami' du Sheikh al-Albani, rahimahullah, et qui a dit qu'il était bon ou bien authentique. Le doute vient de moi. De toute façon, le hadith est thabit, c'est-à-dire il existe. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, awliya'ullah, les élus d'Allah ta'ala, awliya, alladhina idha ru'u dhukirallah, awliya'allah. Ce sont qui? Ce sont ceux qui ils sont dans les tombeaux et on va tourner autour d'eux avec des bougies, je ne sais pas quoi, et le henné. Non, il a bien expliqué. Il a dit Awliyaullah, les élus d'Allah. Il a dit comme ça. Hum, c'est-à-dire il n'a pas dit hum, il a dit, ou bien il a dit hum. Hum, c'est-à-dire ce sont Alladhina idaru'u, ce sont ceux que, lorsque vous les voyez, dhukirallah, tu invoque Allah Ta'ala. Donc cette personne qui vient de poser la question n'a fait qu'appliquer un hadith. N'a fait qu'appliquer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que les awliya Allah, ce sont ceux qui, lorsqu'on les voit, on invoque Allah. Moi, personnellement, ça m'arrive plusieurs fois. Des fois, je suis avec mon épouse dans la voiture, je conduis, je vois quelqu'un. Un R. Avec une barre, avec da. Pourtant, j'en vois beaucoup dans la journée. Mais des fois, j'en vois quelqu'un, je ne le connais pas du tout. Je dis à ma femme, regarde celui-là, quand je l'ai vu, j'ai senti quelque chose. J'ai senti que c'est un vrai R. J'ai senti que peut-être, hein, peut-être il fait partie des élus d'Allah. Parce que quand je l'ai vu, j'ai invoqué Allah, il m'a rappelé beaucoup de choses. Et des fois, je vois une sœur. Quand je vois une sœur comme ça, avec son djilbab, sa façon de marcher, sa façon de baisser les yeux, le cartable qu'elle a dans sa main, le cahier qu'elle tient, ça me rappelle des choses. Je dis, subhanallah, Ça se voit que c'est une vraie sœur, celle-là. Mais j'atteste seulement par apparence. Peut-être que c'est faux, mais j'ai ressenti quelque chose. Et peut-être ça vous arrive vous aussi. Et tu vois, des fois, tu vois des dizaines de barbus et des dizaines de djilbabs, ça te dit rien. Tu dis peut-être même le contraire. Tu dis tout ça, c'est peut-être bluff sur bluff. Non, Wallahu ta'ala, même si on n'a pas le droit de dire ils sont en train de bluffer, mais c'est pour vous dire. Tfadval.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'un frère qui dit: j'ai cru entendre que Cheikh a parlé de l'édition Al-Hadith pour le livre du dogme du monothéisme traduit en français. Est-ce bien cela? Je vous demande cela car j'ai entendu de la part d'un frère qu'il s'agissait d'une édition soufie. Édition soufie. Pouvez-vous, s'il vous plaît, expliquer le shirk majeur du doute ou de l'incertitude? Barakallahu fikoum, cher.
Je pense, Wallahu ta'ala, que j'ai dit que c'était Dab Hadith, si je me souviens bien. Reprenez-moi si je me suis trompé. C'est vrai ou pas? J'ai dit, je crois Dab Hadith. Naam. Donc c'est ça. Vous connaissez mieux que moi cette édition. Vous êtes là-bas et vous connaissez. Si c'est une édition soufie, donc c'est soufie. Si c'est Tablir, c'est Tablir. Naam. Moi, je connais pas cette édition. Moi, tout ce que je sais, c'est que cette édition, Naam, ne peut pas, bi'idhnillahi ta'ala, me faire passer quelque chose yani, qui n'existe pas pour la faire passer en quelque chose qui existe. Ou bien une bida et peut me la faire passer en sunna. Ou bien haram ou hadad. Parce que quand je lis, j'ai aussi le livre arabe. Et je base sur l'arabe pour voir ce qu'ils ont dit eux. Est-ce que yani, c'est conforme ou c'est pas conforme. Ou alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala m'a aidé et m'a donné un certain niveau. Aussi dans le français pour que je puisse comparer. Alhamdoulillah. Maintenant, si quelqu'un yani, a un niveau qui ne lui permet pas de comparer entre les deux et qu'il sait que cette édition n'est pas bien, alors qu'il s'éloigne d'elle. Qu'il s'éloigne d'elle pour que cette édition ne le trompe pas. Bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Tfadval. C'était quoi la question, Afoun? C'était quoi?
Sa question était: pouvez-vous, cher, réexpliquer le shirk majeur du doute ou de l'incertitude? Barakallahu fikoum, cher.
Le shirk majeur du doute et de l'incertitude. Naam. Tu as dans le cœur le doute. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, yani c'est vrai qu'on va le rencontrer un jour ou on ne va pas? Des fois je sens qu'on va le rencontrer, des fois je dis peut-être non. Est-ce que c'est vrai qu'on va ressusciter? Oui, mais j'ai un peu de doute, peut-être non. Peut-être ce sont seulement les gens qui disent comme ça. Et comme ça. Est-ce qu'il y a le paradis? Est-ce qu'il y a l'enfer? Oui et non. Et comme ça. Non, les doutes. En islam, alif lam mim, bismillah, dhalika al-kitab la rayba fih. La rayba fih. Ce livre ne contient aucun doute. Bah, si tu as des doutes maintenant, non, c'est de la mécréance. Non, tfadl.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'une sœur qui dit: vous avez dit à plusieurs cours, Wallahu alam, que l'ignorance était pardonnée. Est-ce que le shirk akbar l'est aussi? Est-ce qu'un hizbi par ignorance est pardonné? Vous avez en partie répondu, cher, mais si vous pouvez apporter plus de précision, barakallahu fikoum.
Est-ce que tu as dit Hizbi? Tu as dit est-ce qu'un Hizbi est pas? Est-ce que tu as dit comme ça?
Naam, la sœur dit: est-ce qu'un hizbi, par ignorance, est pardonné? Barakallahu fikoum.
Si vous vous rappelez bien, dans le cours et dans plusieurs des cours à Ta'ala, j'ai toujours répété que d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la base, que toute personne qui fait un péché dans l'ignorance, ne sachant pas que c'est un péché, qu'Allah Ta'ala ne la châtie pas. Si on prenait seulement la Sahabiya radiallahu ta'ala anha, qui restait des mois et des mois, ou plutôt dans le mois, dans le mois, elle restait des jours et des jours, et des fois des mois sans prier. Croyant quoi? Croyant qu'elle avait les menstrues. Alors que c'était quoi? C'est des métroragies. Est-ce que le prophète lui a dit, comment ça? Naam, tu sais pas qu'il faut prier, comment donc va rattraper les prières, etc. Non. Pourquoi? Parce qu'elle était dans l'ignorance. El-Muhim, maintenant, je dis bien, et je l'ai dit la fois passée, si la base, c'est que quand je fais un péché dans l'ignorant, je suis excusé pour ce péché. Mais peut-être je ne suis pas excusé pour ne pas avoir demandé la science. Et Allah Ta'ala dit, Iqra, premier verset, Iqra, Iqra, il a dit, Fa'alam annahu la ilaha illa, sache qu'il y a divinité vraie qu'Allah Azzawajal. Et le hadith a dit, Talabul ilmi farida ala kulli muslim. La quête de la science est une obligation pour chaque musulman. Et toi, qu'est-ce que tu fais de tous ces hadiths et tous ces versets? Et tu passes ton temps en train de voir, je ne sais pas quoi, à la télé ou bien dans les cafés en train de discuter. Vous avez compris? Allah Ta'ala t'excuse pour avoir fait ce péché. Mais il va donner des péchés pour ne pas avoir demandé la science et n'avoir pas été assidu dans l'apprentissage de la science. Naam. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Demandez aux hommes de science. C'est pas tu dis je fais les péchés, ensuite Allah va me pardonner parce que ça rentre dans l'ignorance. Et ensuite, il y a aussi une autre chose très importante. Celui qui vit à la campagne, ou dans la campagne, ou dans la forêt, dans sa cabane, Naam, loin des savants, loin des mosquées, loin, celui-là, il est beaucoup plus excusé que celui qui vit dans la ville. Et il entend le adhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, à 100 mètres de lui. Et il y a l'imam qui a un niveau, mashallah, il fait des cours, les doros. Et toi, tu ne vas jamais lui poser des questions, ni tu vas apprendre chez lui, alors qu'il est, mashallah, il a la science, etc. Donc, il y a une différence entre celui qui est dans la cabane, dans la forêt, et celui qui est dans la ville, parmi les savants. Et il a maintenant l'internet, mashallah. Il va sur Google et il écrit, Hukm kada ou kada. Quel est le jugement de celui qui fait ceci? Que, naam, les fatwas de Ben Baz, Louhaïden, Souhaïmi, kada. Tout est devant toi. Autrefois, il faisait des centaines de kilomètres pour aller chercher un hadith. Des centaines par avion, sur l'âne, à Dodane. Centaines de kilomètres, miskin, avec une gourde d'eau et 4 ou 5 dattes. Naam, pour chercher un seul hadith. Maintenant, toi, tu cliques sur Google, tu hadith, il y a des programmes, Maktaba Shamila et je ne sais pas quoi, ils te donnent tout dit en un clin d'œil. Tous les hadiths, Maktaba de Sheikh Al-Albani, tu écris Salat, ils te donnent 6 000 ou 10 000 hadiths sur la Salat. Et comme ça, Allahu Akbar. Naam, quand j'ai dit que celui qui est dans la cabane est plus excusé que celui qui est dans la ville, c'est un peu. Celui qui est dans un pays musulman est moins excusé que celui qui est comme vous dans un pays de kuffar. Vous avez compris? Non, tout est relatif. Celui qui est dans un pays musulman est moins excusé comparé à celui qui est dans un pays de kuffar, loin des savants. Non, il n'a pas où demander, il n'a pas. C'est pour cela que vous, Inch'Allah Ta'ala, Inch'Allah Ta'ala, Inch'Allah Ta'ala, pour les sincères d'entre vous, vous aurez beaucoup de récompenses, bi'idhnillahi ta'ala. Parce que vous êtes, yani, vraiment dans un. Vous êtes, comme on dit, dans la boue. Vous êtes noyé dans la boue. Naam. Il n'y a pas à qui demander secours. Naam. Subhanallah, dans la boue, aucun savant, loin des savants, loin des facultés islamiques, loin des universités islamiques, loin des ulama, loin, loin. Et, alhamdoulilah, vous accrocher au maximum d'apprendre de d'écrire de réviser de Allah ibarak. Il ne vous manque qu'une seule chose, c'est de faire la hijra inshallah ta'ala. Tfadhal.
Qu'Allah la facilite à tous et à toutes. La question suivante d'une sœur qui dit: Cher, qu'Allah vous préserve, mon père se dit musulman et ne pratique pas. Il est. Vous êtes là, cher?
Non, je ne sais pas si vous avez entendu ce que je disais. À la fin, je me suis trouvé déconnecté.
Ça s'est arrêté, Cheikh, au moment où vous disiez il ne vous manque plus qu'à faire la hijra. Je ne sais pas si vous avez terminé la, si vous aviez terminé ou s'il y avait une autre chose après ça.
Alhamdoulilah, c'était ma dernière phrase. Alhamdoulilah, c'était ma dernière phrase. Tfadl.
Donc, Cheikh, la question suivante est: Cheikh, qu'Allah vous préserve. Mon père se dit musulman et ne pratique pas. Il est politicien et se bat pour un islam modéré. Est-il kafir? Peut-on hériter de lui? Quel conseil pourriez-vous me donner, Cheikh? Jazakumullahu khaira, qu'Allah vous récompense en bien fi dunya wal akhira, ainsi que le firdaus al-a'la.
Personne n'a pas bien expliqué dans quelle situation était son père. Est-ce qu'il priait de temps en temps ou pas? Est-ce qu'il jeûne le Ramadan? Non, il jeûne pas. Qu'est-ce qu'il pense du Hajj? Et comme ça. El Mohim. Autre chose aussi. Elle dit il se bat pour un islam modéré. Eh, alhamdoulillah. Nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'islam modéré. Nous, on est pour l'islam modéré. Le prophète islam est venu avec un islam modéré. Allah Ta'ala a fait descendre l'islam modéré. L'islam des Anbiya. Je ne sais pas qu'est-ce que veut dire la personne ici. Car il y a l'islam exagéré. L'islam de tout le monde est kafir. L'islam de il faut couper les têtes. Celui-là, on se désavoue de cet islam. D'ailleurs, ça ne s'appelle pas islam. Ce n'est pas l'islam d'Allah Azzawajal. C'est l'islam inventé par les Tkfirines ou les autres. Vous avez compris. Donc, elle n'a pas expliqué comment qu'était son père. Et quand elle a dit qu'il était politicien, Abou Zakaria, tfadl.
En fait, je suis parti chercher quelques précisions, cher. Il dit qu'il, la sœur dit qu'elle, que son père n'a jamais prié. Il a dit, je ne poserai jamais mon nez au sol. Et il ne jeûne pas non plus. Et il est même contre les salafis en général, en plus.
Naam, puisse Allah subhanahu wa ta'ala le guider. S'il meurt ainsi, dans ce cas, vous n'avez pas le droit de le laver, ni de prier sur lui, ni de l'enterrer dans le Westbourg, dans le cimetière des musulmans. Et en plus de cela, vous ne pouvez même pas l'hériter. Vous ne pouvez même pas l'hériter. Car s'il ne priait pas et se taisait, et s'était tu, plus ou moins. Mais quelqu'un qui défie. Il dit, moi, jamais je pose mon nez sur le sol. Vous avez compris? Ça veut dire, moi, jamais je ne reconnais d'être un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être un abd. Jamais, moi, je reste toujours comme ça avec mon nez levé. Jamais je pose mon nez sur le carrelage. Comme ça, il dit. Allah yahdi. Voilà. Ce que je dis donc à cette sœur, c'est d'essayer de lui parler avec hikma, avec sagesse, de lui donner des petits livres. Peut-être qu'il lit des livres et pas des livres de 400 pages, il ne va pas le lire. Des livres de 20 pages, 30 pages, des petits livrets comme ça, qui parlent de l'islam, la beauté de l'islam, c'est quoi l'islam? Ce genre, Asa Allah subhanahu wa ta'ala qui le guide. Tfadl.
Amin Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'un frère qui dit: quelle est l'ignorance qui est excusable? Car j'ai entendu un audio de Cheikh Fawzan qui dit que celui qui se prétend que celui qui prétend que le kafir est excusé pour son ignorance, cela entre dans l'irja. Barakallahu fikoum, cher.
Est-ce que tu peux répéter la phrase de Cheikh Fawzan Hafidhahullah?
Donc le frère dit qu'il a lu, il a entendu plutôt une audio de Cheikh Fawzan qui dit que celui qui prétend que le kafir, que le mécréant, est excusé pour son ignorance, alors c'est un murji, ou ça rentre dans l'irja.
Sûrement que le Cheikh Hafidhahullah parler du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que il avait juré sur celui qui détient son âme alayhi sallam que il n'y a pas un chrétien ou un juif qui entendrait parler de lui sans le suivre l'âme qu'il ne sentirait pas l'odeur du paradis. Peut-être qu'il parlait de ce hadith. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Car maintenant, comme vous savez, l'islam s'est répandu à travers tout le monde. Maintenant, il n'y a pas peut-être un kafir qui va dire que j'ai pas entendu parler d'islam ou je connais pas ce qu'ils appellent Mahomet ou je ne sais pas quoi. Enfin, reste que, ils ont entendu parler de lui comme il était vraiment ou ils ont entendu parler de lui déformé? Ça, c'est une question qu'il faut toujours se poser, bi-idhnillahi ta'ala. Tfadhal.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'une sœur qui dit: qu'Allah vous récompense pour ses cours bénéfiques ainsi que les admins pour leur aide. Barakallahu fikoum. Pouvez-vous expliquer rapidement la mécréance due au doute et la mécréance due à l'incertitude? Vous l'avez déjà fait tout à l'heure, cher. Et elle veut juste savoir si vous pouvez donner un exemple. Barakallahu fikoum, cher.
Naam, je l'ai expliqué tout à l'heure, Maalich, je le réexplique. Peut-être que cette personne, Allah, a comme nous tous, on a des fois le waswas. On dit, est-ce que j'ai des doutes ou quelque chose comme ça? Non, on parle pas de cela. On parle de certaines personnes, Naam, qui, Naam, déjà à la base n'étaient pas des musulmans. Ensuite, peut-être ils rentrent en islam. Mais il n'est pas rentré avec vraiment sincérité. Et il a toujours des doutes dans le cœur. Est-ce que je suis dans le vrai chemin? Ou alors j'aurais dû rester, par exemple, chrétien? Non. Est-ce que vraiment c'est l'islam qui a raison? Ou bien c'est le christianisme qui a raison? Est-ce que Mohammed c'est le dernier des prophètes? Ou bien c'est Jésus le dernier des prophètes? Non. Comme ça, il n'est pas encore musulman celui-là. Et s'il l'était, il est sorti de l'islam. Car il doit attester avec certitude que l'islam c'est la dernière religion qui a abrogé toutes les autres religions. Naam. Mohammed al-Salam, al-Salam, c'est le dernier des prophètes. Naam. Tous les autres avant lui étaient prophètes. Mais lui, c'est leur dernier. Naam. Et comme ça, il ne doit pas avoir de doute qu'il y a par exemple les piliers de l'islam, qu'il y a la résurrection, qu'il doit rencontrer Allah, qu'il y a le Sirat, qu'il y a. Naam. Pour les choses, bien sûr, qu'il connaît en détail. Si c'est pas en détail, ou là, il ne savait pas qu'il y avait le Sirat ou là, il peut être excusé. Mais quand il apprend une chose, il ne doit pas en douter. Quand ça vient du Coran et du Hadith authentique, bi-idhnillah.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'un frère qui dit: Barakallahu fikoum, cher, pour vos cours. Dans votre cours, cher, vous avez parlé du kufr akbar, et parmi les parties de ce kufr, il y a le kufr du doute. Et donc, moi, shaitan me met beaucoup de pensées, de doutes, etc. Quand je fais une adoration, en sachant que je renie toutes ces pensées, suis-je mécréante? Donc, c'était une sœur, en fait. Donc j'essaie de reconstruire la phrase, cher. Donc, vous avez parlé de coffre Akbar. Et parmi ces parties, il y a le coffre du doute. Et moi, Shaitan me met beaucoup de pensées de doute quand je fais une adoration. Sachant que je renie toutes ces pensées, suis-je mécréante? Barakallahu fikum, et qu'Allah nous préserve de toute forme de mécréance.
Amin. Je dis à cette sœur, Inch'Allah ta'ala, tu n'es pas mécréante. Tu ne peux pas être mécréante jusqu'à ce que tu le veuilles. Non, jusqu'à ce que tu fasses quelque chose qui vraiment va sortir de l'islam. Je dis, c'est important à dire. Faut pas que j'oublie. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Alhamdoulilah. La personne qui a posé la question a bien dit, des doutes me viennent, je les refouler. Maalich, il n'y a pas une personne qui, les ouswas, ne viennent pas yani, lui faire des problèmes. Mais, alhamdoulilah, cette personne a dit, je renie ces doutes, j'essaie de les repousser, de les refouler. Je dis, non seulement, en faisant ainsi, tu n'es pas sorti de l'islam, mais encore, tu as des récompenses car tu fais le djihad. Le shaitan veut t'avoir et veut te ruser et veut te dire tu es sorti de l'islam et toi tu le combats. Tu lui dis non, moi je suis pas sorti car j'aime Allah Ta'ala et son prophète. Et je veux pas sortir. La preuve, je ne veux pas sortir. Si maintenant on va me donner des millions et on va me dire choisis, entre tu apostasies, je te donne des millions. Je choisis l'islam, je prends pas les millions. Donc ça se voit que je ne suis pas mécréant et j'aime pas les mécréants et je ne veux pas devenir mécréant. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Donc l'essentiel c'est quoi? On a tous certains doutes et des ouesouès, il faut les combattre seulement et tu auras des récompenses pour les avoir combattus bi'idhnillahi Ta'ala. Tfadhal.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante. Pouvez-vous répéter l'explication de Ibn al-Qayyim sur l'objectif de notre création, donc la connaissance d'Allah, etc. Et aussi expliquer la concordance entre le verset nulle contrainte en religion et le hadith je les combattrai jusqu'à ce qu'ils disent La ilaha illallah. Barakallahu fikoum, cher.
Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit que notre besoin par rapport à la religion. Naam. Yani, combien qu'on a besoin de la religion, notre besoin de la religion est beaucoup, beaucoup, beaucoup supérieur et important comparé à notre besoin de manger et de boire. Et même de respirer. Vous savez qu'on ne peut pas vivre sans manger, boire et respirer. Naam. Il dit, mais ne pas adorer Allah Ta'ala, c'est beaucoup plus important. Et c'est l'étouffement total. C'est la mort, la mort, la grande mort. C'est la grande mort. Car on peut des fois vivre juste avec un peu d'eau et un peu de pain et un peu, je ne sais pas, un peu de date. Non, mais par contre, quelqu'un qui ne vit pas avec Allah, ou bien vit loin de lui, c'est quoi? Il vit les bestiaux. Il vit comme vivent les bestiaux. Allah Ta'ala dit dans le Coran, et ceux qui m'écroient jouissent et mangent comme mangent les bestiaux. Résultat, le feu sera leur lieu de séjour. Les koufars, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouissent et mangent comme mangent les bestiaux. Qu'est-ce qu'il leur manque? Il n'y a pas l'adoration. Nous aussi, on jouit. On jouit de nos biens, on jouit de nos femmes, on jouit de tout ce que Allah Ta'ala nous a donné. Et on mange aussi. Mais on adore Allah. Donc on ne jouit pas, on mange comme les bestiaux, on fait ce qu'on veut. Il y a une sharia qui nous guide. Ce qui te commande, ce n'est pas tes passions et tes désirs. Non, ce qui te commande, c'est le Coran et la Sunna. Avant de faire une chose, tu demandes. Est-ce que Allah Ta'ala a permis? Est-ce que le prophète Aslam a permis? Les autres, non. On lui offre quelque chose à boire, il voit seulement si elle est bonne ou pas. Il goûte, il dit, oh, c'est bon, hein. Il boit la bouteille. Toi, non. Avant de boire, tu dis, c'est quoi ça? C'est permis en islam de boire ça? Je sais pas, attendez, je demande au savant. Peut-être c'est quelque chose qui se boit pas en islam. Vous avez compris la différence? Al-Muhim. Quant à la conquête, le verset, pas de contrainte dans la religion. Et Umirtun uqatil an-nas hatta yashhadu la ilaha illallah. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit le hadith Umirtu an uqatil an-nas. Il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Il a dit ce verset général. Et il a été particularisé. Khossé ça. Bi al-jizya. Il devient particulier par le fait que celui qui vit sous l'égide des musulmans, n'est pas combattu. Si quoi? Si paye l'impôt. Et dans ce cas, pas de contrainte dans la religion. Comme a dit Allah Ta'ala. Tu veux rester chrétien, reste. Tu veux rester juif, reste juif. Même Ibn al-Qayyim, Ibn Taymiyyah, Cheikh Ibn Uthaymin prennent de l'avis que celui qui veut vivre sous l'égide des musulmans et payer les impôts, peut être même bouddhiste. Ou mazdéen. Car beaucoup de savants ont dit, c'est seulement pour le chrétien et les juifs. D'autres ont dit, non, il y a un hadith authentique du prophète, il a pris l'impôt de Majus, des Majus, des Mazdéens, des adorateurs de feu, Majus Hajar, autrefois. Donc, il n'y a aucun problème entre le hadith, je combats jusqu'à ce qu'il dise la ilaha illallah. Sauf, s'il veut payer l'impôt, il vit sous l'égide des musulmans, je le protège. Quiconque le tue n'ira pas au paradis. Amen. Quiconque veut le voler ou là, ou bien je le mets en prison, ou bien je lui coupe la main, ou bien. Naam. Naam. Donc, pas de contrainte dans la religion. Et il est libre d'appliquer sa religion, surtout si c'est yani, dans sa maison. Tfadlad.
Allah fait comme cher, question suivante d'une sœur qui dit: Cheikh, hafidhakumullah wa ra'akum cheikh. Est-ce que le fait d'insulter l'islam sans insulter Allah ni le prophète, alayhi salatu wa salam, et cela par dépression et pour attirer l'attention sur soi, est-ce que cela fait sortir de l'islam, cheikh? Barakallahu fikum.
Si la personne sait ce qu'elle est en train, elle sort de l'islam, même si elle ne veut pas sortir. Car les savants disent, l'essentiel c'est quoi? L'essentiel c'est quoi? L'essentiel c'est de savoir cette chose fait sortir de l'islam. Et non pas de vouloir sortir. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Quelqu'un qui jette le Coran par terre, en sachant que c'est un Coran, et en sachant que si tu le jettes par terre, tu sors de l'islam. Tu es assis en face de moi, je te dis, regarde, ce que j'ai dans la main s'appelle le Coran. Il vient d'Allah Azzawajal. Si tu le jettes par terre, tu deviens mécréant. Et tu me dis, d'accord, donne-moi le Coran. Je te le donne et tu le jettes par terre. Ensuite, quand je te dis, maintenant tu es devenu mécréant, tu vas me dire non. Moi je l'ai jeté, mais pas dans le sens de sortir de l'islam. C'est juste par exemple pour t'énerver, pour voir ta réaction, pour attirer les gens, comme dit ici la personne, attirer les gens sur moi, pour ceci, pour cela. Tout cela n'a pas d'excuse. Tant que je suis dans mon esprit clair et lucide, et je sais ce que je suis en train de faire. Maintenant, si la personne est dans la dépression et ne sait pas ce qu'elle est en train de faire, elle est excusée. Quelqu'un qui est dans la dépression, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire, il prend le Coran, il le déchire. Naam. Et après sa dépression, quand il se relève, on lui dit, tu as vu ce que tu as fait? Il dit, moi j'ai fait cela. Moi j'ai déchiré le Coran. C'est impossible. On lui dit, Wallah al-Azim, tu l'as fait. Il dit, Wallah al-Azim, je ne savais pas. Wallah al-Azim, c'est impossible que je fasse cela. Celui-là, il est excusé, il ne l'a pas fait exprès. Mais tu sais que c'est le Coran. Ensuite, tu le déchires. Ou là, tu craches dessus. Et tu dis, c'était pour telle ou telle chose. C'est un peu les savants disent, comme quelqu'un, on lui dit, écoute, si tu dis à ta femme, tu es divorcé, même si tu plaisantes, elle est divorcée. Comme ça a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Trois choses, il n'y a pas de plaisanterie. Ensuite, il t'a entendu dire cela. Ensuite, il appelle sa femme au téléphone. Allô, Smha, Farida ou je ne sais pas qui. Voilà, tu es divorcé. Ensuite, il commence à rire. Ah, tu as eu peur, hein? Non, c'est juste pour plaisanter. Hein, pour voir ta réaction si tu dis je vais chez moi ou là si tu dis Alhamdoulilah, je vais me remarier avec un autre. C'est juste pour plaisanter, tu es toujours ma femme. Celle-là, elle est divorcée. On va lui dire, subhanallah, il va dire, subhanallah, Allah Ta'ala connaît mes intentions, plaisanter. Oui, mais on lui dit, le hadith a dit que si tu plaisantes, subhanallah, elle est divorcée. Donc, comment qu'on fait? Le hadith a dit, il dit, il faut pas plaisanter. Pourquoi tu plaisantes? Il a dit, si tu plaisantes et tu dis, tu es divorcée, elle est divorcée. Al-Muhim, puisse Allah Ta'ala nous apprendre notre religion. Naam, je crois qu'on va arrêter ici, Inch'Allah Ta'ala. Tayyib, qu'en pensez-vous? On ajoute trois questions. Faites dans les trois dernières questions.
Mashallah, cher. Justement, il reste trois questions en rapport avec le cours. Donc, vous avez vu juste. Donc, la question suivante est la question d'une sœur qui dit: Ai-je le droit de rendre visite à ma mère qui fait de l'association, sachant qu'elle continue à faire de l'association malgré les rappels que je lui fais? Barakallahu fikoum, cher.
Ta mère, même si elle adore le Bouddha, Naam. Et a besoin de toi, tu dois l'aider dans les choses qui ne se contredisent pas avec l'islam. Ta mère, si elle adore le Bouddha, et elle te dit, viens m'acheter des médicaments, je suis malade, tu dois aller lui acheter. Viens me préparer pour manger la cuisine, tu lui prépares. Et comme ça. À condition que tu ne l'aides en rien en ce qui a rapport avec les péchés, les grands péchés qu'elle est en train de faire. Et à condition de lui faire comme ça des rappels, peut-être que elle reviendra vers le haqq, inshallah ta'ala. Tfadlak.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'un frère qui dit: Ya cher, j'aimerais que vous réexpliquiez pourquoi l'ordre chronologique de ce verset, car je n'ai pas bien saisi. Barakallahu fikoum. Donc, quand les hypocrites viennent à toi, ils disent: Nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Donc, pourquoi l'ordre chronologique de ce verset?
Je suis en train de chercher. Une seconde. Est-ce que vous voyez le verset devant vous? Taïeb, je demande aux admins, ils sont 4 ou 5 avec moi. Tout à l'heure, j'ai expliqué pourquoi Yanni il a commencé comme ça. Et si on changeait de la position, qu'est-ce que ça va donner? Ceux qui d'entre vous ont compris, parmi les osmo, les admins, ceux qui d'entre vous ont compris pourquoi ils écrivent numéro 1, ceux qui n'ont pas compris, ils écrivent numéro 2, parmi les admins. Tfadlou, je vous attends. Ça coupe, c'est maintenant que ça coupe. Fawzi, c'est maintenant que ça coupe. Hein? Quand je demande de répondre, vous dites ça coupe. Tout à l'heure, vous dites, vous n'avez pas dit ça coupe. Hein? Maalish, maalish, maalish. Je vais venir là-bas à la boulangerie où tu travailles, je vais te montrer. Donc, je répète, Inch'Allah Ta'ala. Je répète. Regardez bien ce qu'a dit Allah Ta'ala. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent, nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah Ta'ala veut que ça. Ça, il est le messager d'Allah. Alors il a dit, Allah sait que tu es son messager. Naam, c'est vrai. Ensuite, Allah Ta'ala s'est retourné vers les autres, il leur a dit, et j'atteste que vous êtes des hypocrites, des menteurs. Quand Zama, vous attestez que Allah, que Mohammed est son messager. Naam, je sais que vous êtes des menteurs. C'est pas vrai, vous le faites seulement pour Yannick, qu'on vous tue pas, etc. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour vous cacher derrière les musulmans. Saha. Maintenant, si on va changer l'ordre, si Allah Ta'ala avait dit, quand les hypocrites viennent à toi, ils disent, nous attestons que tu es le messager d'Allah. Si Allah Ta'ala avait dit ensuite le troisième verset, là, et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Ça veut dire, quelqu'un pourrait comprendre, donc les hypocrites sont des menteurs. Donc c'est pas vrai, Naam, c'est pas vrai qu'Allah Ta'ala a dit que, yani, que Mohammed était le messager d'Allah. Donc c'est pas vrai. Donc ce sont les hypocrites, yani, qui ont dit que, yani, Allah Ta'ala a dit d'eux que c'était des menteurs. Donc c'est pas vrai. Mohammed n'est pas le messager d'Allah. Mais, comme il a laissé Allah Ta'ala exprès le verset au milieu, c'est pour confirmer que c'est vraiment le messager d'Allah. Et que les menteurs, ce sont les hypocrites, pas les autres. Vous avez compris? Je ne sais pas si vous pouvez comprendre cela. Non, il faut bien méditer pour pouvoir comprendre. Ibn Zakaria, ou là, quelqu'un de vous, est-ce que quelqu'un a compris et qui puisse formuler ça en d'autres termes. Allah a dit, quand les hypocrites viennent à toi, ils disent, nous attestons que tu es le messager d'Allah. Imaginez, les hypocrites, Naam, disent, nous attestons que tu es le messager d'Allah. Et Allah Ta'ala, imaginez qu'ils disent, Allah atteste que les hypocrites sont des menteurs. Ça veut dire que tu n'es pas le messager d'Allah. Car eux, ils ont dit que tu es le messager d'Allah, mais ce sont des menteurs. Donc toi, tu n'es pas le messager d'Allah. C'est pas vrai. Mais Allah Ta'ala dit non. A dit si. Naam, c'est vrai, tu es le messager. Ça, tu es mon messager. Mais ce sont eux les menteurs. Naam, ce sont les menteurs quand ils ont dit que Zama, on reconnaît que tu es le messager. Sinon, tu es le messager. Wallahu a'lam. Tfadhal.
Barakallahu fikoum, cher. Je pense que c'était très clair, donc qu'on ne pourra pas expliquer mieux que vous l'avez fait, cher. Donc, question suivante, et la dernière, donc, du frère, qui dit, Hayakum Allah, cher, wa hafidhakum Allah. Qui est le pire? Est-ce l'apostat ou l'hypocrite? Car l'hypocrite est pire que le mécréant, alors que l'apostat. Et donc l'apostat est-il pire que l'hypocrite? Donc cher, qui est le pire, l'hypocrite ou l'apostat? Car l'hypocrite est pire que le mécréant. Et dans ce cas, et également donc, est-ce que l'apostat est pire que l'hypocrite? Barakallahu fikoum, cher.
Franchement, je ne sais pas. Mais si je me base sur le verset qui dit Inna al-munafiqina fi d-dark al-asfal min an-nar. Les hypocrites sont dans la dernière marche de Jahannam. C'est comme s'il y avait des escaliers. Plus tu descends, plus la personne va dans le plus grand châtiment, le plus fort, le feu le plus enflammé, le plus chaud, etc. Et plus on monte un peu les marches, plus yani, ça devient un peu moins yani. Sinon c'est difficile, mais allez, c'est moins par rapport à la dernière, ceux qui sont dans les tréfonds, la dernière marche. Le mohem Allah Ta'ala dit inna al-munafiqina fi d-darki al-asfali min an-nar. Donc si on prend ce verset, les munafiqun, ce sont ceux qui seront yani dans les tréfonds. C'est-à-dire que tous les autres, y compris peut-être l'apostat, il ne sera pas comme eux, il ne sera pas comme les munafiqun. Ensuite, l'apostat, il est mieux que le munafiq. En quel sens? Il est mieux que le munafiq en ce sens que il a été sincère. Il était musulman, ensuite il a dit, je quitte cette religion, elle ne me plaît pas. Ensuite, toi, tu sais que c'est un ennemi. Tu as peur de lui. Attention, celui-là, c'est un apostat. Attention, prenez garde de lui. Tandis que le munafiq, non. Il est avec toi. Oh, mashallah, l'islam, comme c'est bien. J'aime l'islam. Allez, viens, on va prier. Viens, ceci. Alors que dans son cœur, il est kafir. Il dit, il n'y a pas d'islam. Naam, les shayatines, c'est musulman. L'islam, c'est la religion du shaitan. Et comme ça. Donc l'autre, il est mieux. C'est pour ça que l'hypocrite yani, mérite d'être dans yani, la case la plus basse. Ensuite, l'apostat est aussi mieux dans un autre que l'hypocrite. Pourquoi? L'apostat, au moins, il est rentré en islam et a adoré un peu Allah subhanahu wa ta'ala, et a prié, a fait l'aumône et a fait. L'autre, il n'a rien fait, le munafiq. Pourquoi? Parce qu'aucune chose n'a été acceptée de lui. Car il n'avait pas la foi dans son cœur. Et pour que Allah Ta'ala accepte une chose de quelqu'un, il faudrait qu'il soit croyant pour que Allah accepte. Wallahu alam. Al-Muhim. Voilà, sallallahu ta'ala pour la dernière question. Maintenant, je vais tous yani, baisser vos mains et vous poser une question. Aya, tfadzal. Tfadzal.
Afwanchir, je ne sais pas trop vous retenir comme ça, mais c'est une question un peu particulière d'un frère qui dit. Mes beaux-parents ne sont pas musulmans, qu'Allah les guide. Ils sont très gentils et très proches de nous. Ai-je droit de les aimer pour leur qualité et parce qu'ils sont mes beaux-parents? Et comment doit-on agir lorsqu'on a une famille non musulmane? Barakallahu fikoum cher et qu'Allah vous préserve.
Il faut toujours faire la différence entre l'amour religieux et l'amour naturel. L'amour et l'amour naturel. Celui-là, c'est mon père et c'est ma mère. Il faut que j'ai des penchants pour eux, pour m'avoir été la cause de ma venue dans ce monde, pour m'avoir fait grandir, éduquer, m'avoir donné à manger, à boire, à allaiter, comme ça. Vous avez compris? Mais je ne les aime pas en Allah Ta'ala. Je les déteste dans leur religion. Je déteste ce qu'ils font, qui est contraire à la charia. Et ça m'empêche pas que si quelqu'un, mes parents me demandent de faire une chose qui est dans leur bien et qui ne se contredit pas avec la charia, de la faire. C'est ça le vrai musulman. Tu apprends, yani, comment donner à chaque chose la chose qui lui convient. La même personne, cette personne, elle-même, une personne, la même, qui ne change pas, je l'aime pour telle chose et je la hais pour telle et telle chose. Subhanallah l'adhim. Je suis marié avec une chrétienne. Non. C'est pas vrai, je suis pas marié, c'est un courbac. Peut-être ils vont m'entendre là-bas. Je disais, donc, je déteste ma femme. Non. Voilà, parce qu'il y a le perroquet où là il peut répéter ça, ensuite c'est grave pour moi. Je disais, quelqu'un, enfin c'est pas moi, quelqu'un qui est marié avec une chrétienne, il aime sa femme en tant que femme. Sinon, s'il ne l'aime pas, pourquoi il s'est marié avec elle? Il aime sa femme, elle lui plaît, elle a des qualités, elle a des je sais pas, ses cheveux qui lui plaisent, je ne sais pas quoi. Non. Il l'aime de ce côté-là. Et il la déteste parce que quoi? À cause de sa religion. Il déteste sa religion. Il déteste. Non. Il déteste, yani, comment qu'elle désobéit à Allah Ta'ala, comment qu'elle dit que Allah Ta'ala a un enfant, comment qu'elle dit que ceci et cela, des choses aberrantes. Et pourtant, il aime sa femme. Et c'est elle, toujours une seule personne. Il aime son côté naturel, étant sa femme, étant belle, ayant un beau caractère, étant gentil, étant douce. Il déteste son dîne et sa prière et ce qu'elle fait, les bougies qu'elle allume, mais je ne sais pas quoi. Subhanallah. Comment le musulman, comment il peut, chaque chose, il lui donne, il met chaque place dans chaque chose dans sa place convenable. Allahu Akbar. Si c'était un autre, il dit quoi? Non. Ou bien, il dit non, moi je m'en fous, moi l'essentiel, j'aime ma femme. Et puisque je l'aime, elle est belle, elle me plaît, donc j'aime aussi son dîme. Allez, j'aime aussi son christianisme. Et l'autre, il va dire quoi? Quoi? Celle-là, une chrétienne. C'est un ennemi d'Allah. Celle-là, c'est ma femme, celle-là. Je vais l'étrangler ce soir. Ce soir, je vais la pendre dans la salle de bain. Celle-là, c'est une chrétienne. Vous m'avez pas dit. Non. Subhanak Allahumma bihamdik. Rendez-vous au maître Allah Ta'ala. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.